السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل وبياكم. Donc, inshallah ta'ala, ce soir, nous sommes, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, une seconde, mercredi 24 Rabi' al-Thani, 1434 de l'Hijr, correspondant au 6 mars 2013. Nous sommes au cours numéro 17, dans le livre de nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va commencer par parler sur l'appel à Allah et l'enseignement de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'enseignement du bien. Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, il a dit, une science qu'on ne divulgue pas est semblable à un trésor dont on ne dépense rien. Une science qu'on ne divulgue pas est semblable à un trésor dont on ne dépense rien. Naam, avoir une science et ne pas la divulguer, ni la propager, c'est semblable à avoir un trésor dont tu ne dépenses rien. Tu ne dépenses rien. Je ne dis pas pour les autres et les pauvres. Même pas pour toi. Même pas pour toi, tu ne remplis pas ton ventre, ni t'habilles convenablement. Naam. Ni les besoins de la vie, tu n'achètes rien. Donc tu as un trésor qui ne te sert à rien. Mohammed ibn al-Qasim rapporte, rahimahullah, il a dit, lorsque nous faisions nos adieux à Malik, rahimahullah, il nous disait, qu'est-ce qu'il nous disait? Craignez Allah, propagez cette science, enseignez-la et ne la cachez pas. Craignez Allah, propagez cette science, enseignez-la et ne la cachez pas. D'ailleurs, tous, sûrement, vous connaissez le hadith « Belliro anni walo aya »« Propagez de moi, ne serait-ce qu'un verset. »« Ne propagez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Donc, des fois, la personne connaît yani, ce que contient un verset, son sens. Donc, le verset contient un jugement, un hukm, une règle. Donc, elle est avec des gens et peut-être l'occasion naam, est venue, donc il montre ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois c'est un hadith et le hadith naam, contient sûrement yani, une règle ou bien un jugement, donc il voit les gens faire une faute ou bien les gens yani, qui disent n'importe quoi, là, il corrige, il dit le prophète islam a dit ceci, a dit cela, et ainsi tu rentreras dans ce qui propage la science, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Reste que les égarés des tablir se basent sur ce hadith. Propager de moi ne serait-ce qu'un verset. Ils se basent sur ce hadith et disent donc la science yani, n'est pas obligatoire, ça me suffit de connaître un verset ou les deux et d'aller les propager. Mais le problème c'est que ils ne propagent pas comme ça, yani, ils disent un hadith et ils partent. Mais ils font des doros. Le hadith ne t'a pas dit de faire des douros si tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas l'aptitude. Non, comment tu fais des douros? Eux, ils s'assoient dans les mosquées et font des douros. La yahdiyam. Al-Muhim. Donc, celui qui a une science, il doit la montrer. L'âme, il doit la propager. Sinon, s'il la cache et la montre pas, ce sera vraiment grave pour lui dans l'au-delà. Lisez ce verset avec moi. Une seconde, je vais me connecter. Une seconde, je vais me connecter, inshallah ta'ala. Une seconde. Non. Regarde ce verset en arabe. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Je demande inshallah ta'ala aux admins, quand j'affiche quelque chose, c'est de la voix de m'écrire numéro 1. Ah, jazakallah, c'est ancien ça. C'est pas la peine que je le répète, inshallah ta'ala, c'est connu. Al-Muhim, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أيضا يلعنهم اللاعنون Ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'avoir exposé ou là, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Allahu Akbar. Celui qui cache ce que nous avons fait descendre comme preuve, et dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna aussi. Voilà ce que Allah ta'ala maudit et que les maudisseurs maudissent aussi. Sufyan ibn Uyayna, afwan, Hassan al-Basri rahimahullah. Hassan al-Basri rahimahullah a dit: Fils d'Adam, quatre choses te sont obligatoires vis-à-vis des adeptes de ta religion. 1. Aider celui qui est bienfaisant. 2. Aimer celui qui se repent. 3. Demander pardon pour celui qui commet des péchés. Non. Lui demander des pardons. 4. Demander à Allah qu'il lui pardonne. 4. Et appeler celui qui tourne le dos. Appeler celui qui tourne le dos. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, a dit: Tu dois conseiller pour Allah ses créatures, car tu ne le rencontreras pas avec meilleure œuvre. Tu dois conseiller pour Allah Azza wa Jalla ses créatures, car tu ne le rencontreras pas avec meilleure œuvre. Tu ne peux pas rencontrer Allah Ta'ala avec meilleure œuvre que quoi? Que d'avoir conseillé ses créatures. Et quand on les conseille avec quoi? Comme ça, de notre tête, de notre philosophie. On les conseille d'après yani, ce qu'on connaît dans le Coran et la Sunna. On ne va pas les conseiller avec quelque chose qui contredit le Coran et la Sunna. Donc, ça revient à quoi? À propager la science. Et ceux qui propagent la science, subhanallah al-azim, donc ceux-là, ils font le travail yani, pour que les gens aillent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ce sont presque, comme on dit, des ambassadeurs ici dans cette dunya. Ils font yani, comment orienter les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, naam, vers yani tawba, vers le repentir, vers yani l'abandon des péchés, comme ça. Donc vraiment ils ont quoi? Vraiment ils ont des récompenses yawm al-qiyam. Il a dit: tu ne vas pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec meilleure œuvre. Naam. Abu al-Hussein ibn al-Munadi rahimahullah rapporte, il a dit: Abu Hamdoun al-Tayyib, comptez parmi les meilleurs des ascètes, parmi les meilleurs des ascètes, enseignant le Coran. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se rendait dans les lieux où on ne trouvait personne pour enseigner aux gens. Il leur enseignait et lorsqu'ils avaient mémorisé, ils se rendaient en un autre lieu de la même manière. Non. Je répète, qu'est-ce qu'il faisait? Il se rendait dans les lieux où on ne trouvait personne pour enseigner. Il leur enseignait, et lorsqu'ils avaient mémorisé après, qu'est-ce qu'il fait? Il se rendait en un autre lieu de la même manière. Ensuite, je dis, à part de la personne qui propage la science, à part ce qu'il attend chez Allah subhanahu wa ta'ala comme grande rétribution, à part cela, dans cette vie, ça l'aide à quoi? Ça l'aide à revivifier son cœur. Non. Ton cœur, de temps en temps, il tombe malade. De temps en temps, s'il n'y a rien, ni da'wah, ni tu propages la science, ni tu parles des hadiths, ni rien, ton cœur, tu vas sentir qu'il commence comme une fleur, qui commence à sécher, une fleur. Non. Donc toi, quand tu parles aux gens et tu dis Allah Ta'ala a dit, le messager a dit, Allah Ta'ala a dit, le messager Hashem a dit, tu expliques comme ça des gens, aux gens, à tes amis, à ton entourage, tu vois que ton cœur, subhanallah l'adhim, commence à revivifier de nouveau. Il renaît de nouveau. Tu commences à sentir là la saveur de la foi. Tu commences à sentir donc que tu as un rôle. Et quel rôle? Quel rôle? Le rôle des sages. Non. Quel rôle? Il y a des gens qui font ça spécialement pour, yani, pour propager la perversité. D'autres pour propager le kofr. Pour propager comment adorer Iblis. Il y a maintenant des sectes comme ça, les adorateurs du shaitan. Et toi, subhanallah l'adhim, tu es là sans être payé ni rien. Tu propages la science d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant et en espérant que demain, c'est lui qui va te payer bi'idhnillahi ta'ala. C'est lui qui va te payer bi'idhnillahi ta'ala. Abdelkarim ibn Abi Umayya, rahimahullah, a dit, faire revenir quelqu'un, une personne, d'un avis exécrable, ou bien d'un faux avis, ou bien d'une bid'a par exemple, mais préférable au fait d'accomplir une retraite spirituelle d'un mois. Non, que je sois la cause pour faire revenir quelqu'un d'un avis exécrable, qui est faux, qui est bid'a, qui est contraire au Coran et à la Sunna, mais préférable à aller rester un mois enfermé dans la mosquée. Alors que vous savez, celui qui reste un mois dans la mosquée ou les 10 jours là, quelles sont les récompenses qu'il a? Mais il a dit, ça c'est mieux pour moi, je préfère ça. On rapporte que Ibn Shihab, rahimahullah, se rendait chez les Bédouins et leur enseignait. Il se rendait chez les Bédouins et les compagnards et leur enseignait. Saïd ibn Jubair, rahimahullah, a dit, j'espère que les gens ont pris ce que je possède comme science, car c'est ce qui me préoccupe. J'espère que les gens ont pris ce que je possède comme science. Car c'est quoi? C'est la seule chose qui me préoccupe. C'est comment leur donner ce que Allah Ta'ala m'a donné. Comment leur donner et propager ce que Allah Azzawajal, yani, avec ce dont Allah Ta'ala m'a gratifié. Naam. Hamad ibn Abdullah rapporte. Il a dit, j'ai entendu Sha'bi, rahimahullah, dire, ne privez pas de science ses adeptes, les adeptes de la science, les talibul ilm, ne les privez pas de la science, sinon vous commettrez un péché. Et n'accordez pas la science à ceux qui n'en sont pas adeptes, sinon vous commettrez un péché. Non. N'accordez pas la science, ne privez pas de science ses adeptes, les adeptes de la science. Sinon, vous commettrez un péché. Et n'accordez pas la science à ceux qui n'en sont pas adeptes, sinon vous commettrez un péché. Abu Daoud, alayhi rahmatullah, rapporte. Il a dit, Ibrahim ibn Tuhman, ou bien Tuhman, est parti dans le but d'accomplir le pèlerinage. Une fois, il est parti dans le but d'accomplir le pèlerinage. Un pèlerinage surérogatoire. Pas le pèlerinage de l'islam. Et avant d'arriver à Neysabour, il constata que ses habitants avaient adopté la croyance de l'Djehm, Ibn Safwan. Non, ils étaient devenus des Djehmites. Il a dit alors, rester auprès d'eux est meilleur que le pèlerinage. Et il s'installa alors et les fit revenir de la croyance de Djem ibn Safwan, a'oudou billah, le négateur des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, pour moi, ça c'est mieux que le pèlerinage. Quand je vais au pèlerinage, surérogatoire, nafila, qui a gagné? Moi seul. Il n'y a aucune personne qui a profité avec moi. Et quand je reste, apprendre aux gens la aqida et les orienter et les détourner des fausses croyances. s'ils sont djahmites, s'ils sont tablir, s'ils sont ahbash. Je fais des efforts pour les rendre sur le vrai minhaj des salaf. Dans ce cas, c'est mieux que le hajj facultatif. Uthman ibn Atta, rahimallah, rapport de son père, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, mon père a dit, l'œuvre en laquelle j'ai le plus confiance, c'est ma propagation de la science. Non, l'œuvre en laquelle j'ai le plus confiance, c'est ma propagation de la science. Abu Musa al-Khawlani rahimahullah a dit, les savants sont de trois catégories. Les savants sont de trois catégories. Celui qui a vécu avec sa science, en faisant profiter les gens. Celui qui a vécu avec sa science, et en même temps il fait profiter les gens. Deuxième catégorie, celui qui a vécu avec sa science, sans en faire profiter les gens. Troisième catégorie, celui qui a fait profiter les gens de sa science, tout en se conduisant à sa perte. Non. Donc le meilleur c'est qui ? Celui qui a vécu avec sa science, en faisant profiter les gens. Celui-là, c'est le meilleur. Non. Vivre avec la science et en faire profiter les gens. Ibn Hibban, rahimahullah, a dit à propos de Abu Qudama Sarkhasi. À propos de Abu Qudama Sarkhasi, il a dit, c'est lui qui a fait apparaître la sunna à Sarkhas, c'est une ville, à Sarkhas, et il a appelé les gens. C'est lui qui a fait apparaître la sunna à Sarkhas, et il a appelé les gens. Imagine, mashallah, imagine que Allah Azza wa Jalla te choisisse et que ça soit toi, qui fasse quoi ? Qui fasse, par exemple, propager la sunna dans ton quartier. Hein, ton quartier, ils étaient vraiment loin de la sunna. Et toi, tu as aidé la cause de propager la sunna. Ou alors de propager l'islam. Ils étaient tous des kofars dans ton quartier. Et tu as été la cause pour que certains, ou alors beaucoup, sont rentrés en islam. Masha'Allah, masha'Allah. Non. Donc, Yom al-Qiyama, qu'est-ce qu'on dira de toi ? Wahb ibn Munabbih, rahimallah, a dit, celui qui prêche sans science, celui qui prêche sans science, est semblable à celui qui tire sans corde à son arc. Il tire sans corde à son arc. Il a un arc qui n'a pas de corde. Tu as des flèches et tu as l'arc mais qui n'a pas de corde. Quoi ça sert? Il faut quoi? Il faut la science quand on fait le prêche. Non. Lorsque Utba el-Ghulam, rahimahullah, rompait son jeûne, il disait à l'un de ses frères qu'il surveillait. Lorsque Utba el-Ghulam rompait son jeûne, il disait à l'un de ses frères qu'il surveillait, lui disait, donne-moi de l'eau ou des dattes. Vous savez, la sunna, c'est de rompre avec des dattes ou bien de l'eau. Donne-moi des dattes, de l'eau ou des dattes, afin que je puisse rompre mon jeûne et que tu obtiennes une récompense similaire à la mienne. Non. Et que tu obtiennes une récompense similaire à la mienne. D'un côté, il lui apprend que on rend, quand on jeûne, on rend de préférence le jeûne avec quoi ? Avec des dattes ou de l'eau. Quand il lui dit donne-moi de l'eau, des dattes, ça veut dire il lui apprend, c'est comme ça, la sunna. Et en même temps, il l'aide à ce qu'il prenne aussi, lui aussi, des récompenses. Car vous connaissez tous le hadith de celui qui fait manger quelqu'un qui quoi ? Qui a jeûné. Et toi, tu as été ici la cause pour qu'il ait mangé aussi. Même s'il n'a mangé que des dattes ou bu de l'eau. Mais bidnillah, tu as été la cause de la rupture de son jeûne. Non. D'ailleurs, il reste la dernière chose avec laquelle on va terminer ici dans ce chapitre. Al-Hassan. Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, nous avons cherché et considéré cette chose et nous n'avons trouvé personne agissant sans science sans que ce qu'il corrompt soit plus important que ce qu'il amende. Naam. Nous avons cherché et considéré cette chose, nous avons bien vu dans l'islam qu'est-ce qu'il y a, et nous avons trouvé qu'il n'y a pas une personne qui agisse sans science, sans que ça soit ce qu'est le Coran, du verbe corrompre, soit plus grand et plus important que ce qu'elle amende. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Les personnes qui parlent sans science, ils font plus de mal que de bien. Ils corrompent beaucoup plus qu'ils n'amendent. Non. Si vous voulez, comme exemple, rappelez-vous la personne qui avait tué 99 personnes et qui avait demandé qu'on lui montre quelqu'un pour qu'il lui demande s'il peut faire le repentir ou pas. Il a dit, montrez-moi un savant. Et ils l'ont orienté vers qui? Vers un adorateur. Il y a une grande différence entre l'adorateur et le savant. D'ailleurs, même le prophète a dit la différence entre l'adorateur et le savant, ou bien le savant et l'adorateur, c'est comme la lune, c'est comme la différence entre la lune et les autres astres. Regardez la différence entre la lune et les autres astres. On l'a orienté vers qui? On l'a orienté vers un adorateur qui passe la nuit à prier et les jours à jeûner, mais il a né pas de science. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que je peux faire le repentir? Allah accepte de moi. Et il lui a dit, non, c'est pas possible. Tuer déjà une seule personne, yani, c'est très grave. 99 personnes, c'est impossible. Alors l'autre, yani, par désespoir, non, il a dit donc, je termine les 100. Et il a tué cet adorateur, ce djehel. Donc cet adorateur qui était djehel et ignorant, est-ce qu'il a fait du bien? Il a fait du mal. Du mal à qui? À deux personnes. D'abord à lui-même. Il s'est tué. Il a été la cause d'être quoi? D'être tué. La cause, ça fait toi. Et deuxièmement, il a fait du mal à la personne qui est venue poser la question. Il lui a fermé toutes les portes. Il l'a bloqué. Subhanallah. Rappelez-vous aussi le sahabi radiallahu qui avait une fracture dans la tête une fois, et qui, lorsqu'il s'était endormi une fois, il avait fait un songe érotique. Et le matin, il avait demandé aux sahaba qui étaient avec lui, je crois qu'ils étaient en voyage, il leur a demandé, est-ce que c'est possible de faire le tayammum et de ne pas faire le ghusl, de ne pas se laver à cause de la fracture qu'il avait dans la tête? Ils lui ont dit non, on ne te trouve pas d'excuse, tu dois te laver. Il s'est lavé, il est mort. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de cette affaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qatelou, ils l'ont tué. Qatelhumullah. Qu'Allah ta'ala les tue. Ils l'ont tué. Certains ont dit, qatelhumullah, c'est-à-dire il les a maudits. Regardez donc des sahaba radiallahu ta'ala anhum. Et quand une personne, des fois, parle sans science, comment les choses se retournent contre elle? Et comment une personne, yani, qui n'a pas de science peut faire de mal? Non, ils ont été la cause ici que un sahabi est mort, radiallahu ta'ala anhu. Al-Muhim. Alhamdoulilah, je dis, par rapport à ces sahaba, radiallahu ta'ala anhum, qui ont été la cause de la mort de cette personne, je dis, alhamdoulilah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, Ya Allah, toute personne que je maudis, ou que j'insulte, ou que je maudis dans un état de colère, Ya Allah, faites de sorte que ce que je dis soit pour lui une zakat et une purification. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc, c'est une règle. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maudit quelqu'un, on voit. C'est qui ce quelqu'un? Si c'est un pervers, bon, pas un pervers, si c'est un kafir, un mushrikda, on dit, yani, que puisse Allah subhanahu wa ta'ala exaucer, yani, cette doua. Mais si c'est un croyant, un musulman, yani, donc c'est une purification pour lui. Dans l'apparence, c'est un maudissement. Mais dans le fond, alhamdoulillah, c'est une purification. Yani. طيب كيف دوك يدي نص ساعة نزيدو شوية اكتب ان شاء الله اكتب ولا نغون دون ان نوفو شابيتر ان شاء الله تعالى لامور د الله اي سون بروفيت لامور د الله اي دو سون بروفيت لامور د الله اي دو سون بروفيت صلى الله عليه واله وسلم. سعد ابن ابي سعيد المقبري certains disent المقبري rapporte il a dit Marwan est rentré chez Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu lors de la maladie qui entraîna son décès. Et il lui dit, il dit à Abu Huraira, il lui dit, qu'Allah te guérisse, ô Abu Huraira. Il répondit, ô Allah, j'aime ta rencontre. Ô Allah, j'aime ta rencontre. Alors aime ma rencontre. Ô Allah, j'aime ta rencontre, alors aime ma rencontre. Et vous savez qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quiconque aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime sa rencontre. Et le contraire, comme dans ce hadith-là, من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال الشيخ الألباني صحيح 5964 صحيح الجامع 5964 صحيح الجامع. Quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et quiconque déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Donc c'est très clair. Si tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il aime te rencontrer. Si tu n'aimes pas le rencontrer, Allah Azza wa Jal n'aime pas aussi te rencontrer. Si on prend comme ça par apparence du hadith, quand toi tu es seul et tu penses yani, à l'au-delà et tu penses à ce qu'il y a après la tombe, etc., etc., quand tu sais que tu es obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne fais pas les grands péchés, que ceci, cela, tu as toujours le cœur, même si tu as un peu peur, mais tu as le cœur apaisé. Demain je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers, ceci, cela. Je sais qu'Allah est pardonneur et même si j'ai des fautes, ceci, cela. Mais si la personne sait par exemple qu'elle ne prie pas, qu'elle fait des grands péchés, etc., elle ne veut même pas penser à la rencontre d'Allah. Même si on lui parle de ça, elle essaye de détourner le sujet. Elle n'aime pas parler de ces choses. Elle te dit, laisse-moi vivre, ne parle pas de ces choses, on va tous mourir, là ça s'arrête là. Ça c'est pour yani, certains musulmans, je ne parle pas des kuffars. Mais le hadith aussi a un autre sens. A un autre sens. C'est quoi l'autre sens? Regardez ce hadith qui vient. An Aisha, radiallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah, faqila ya Rasulullah. C'est affiché. Faqila ya Rasulullah, karahiyatu liqa'i Allahi, في كراهية لقاء الموت فكلنا يكره الموت. قال لا إنما ذلك عند موته إذا بشر برحمته برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله. نعم وكره الله لقاءه. صحيح أخرجه البخاري ومسلم. دابخي عائشة رضي الله تعالى عنها الله un petit problème avec ce hadith. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Chacun de nous déteste la mort. Il n'y a pas une personne qui aime la mort. Le prophète lui a dit, ce n'est pas cela. C'est plutôt lorsqu'on annonce, lorsque les anges annoncent aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction de lui, naam, et de son paradis. Alors il aime la rencontre d'Allah et Allah aime sa rencontre. Et certes le mécréant, lorsque les anges lui annoncent la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah Ta'ala déteste sa rencontre. Donc le prophète, quand il parlait de celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre, et vice versa, il voulait parler de celui qui est yani, dans l'agonie, celui qui est en train d'agoniser. Là, vous savez, la dernière minute, disons, quand son âme va sortir, S'il est des gens du paradis, des gens pieux, etc., on va lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, ça va lui faire plaisir, bien sûr. Il va yani, souhaiter rencontrer Allah. Naam, souhaiter le rencontrer, être très ravi de cette nouvelle. Et s'il était mécréant, on va lui annoncer la bonne nouvelle, que c'est la mauvaise nouvelle, que c'est l'enfer qui l'attend. Et le supplice, le grand supplice, le grand châtiment, etc. Donc, il va détester la rencontre d'Allah. Alors Allah Ta'ala va rencontrer ça, va détester sa rencontre. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le grand sahabi, a dit: celui qui veut savoir s'il aime Allah et son messager, regarde, il va te donner un signe sur lequel tu vas te baser pour savoir si tu aimes Allah et son messager ou pas. Il a dit: celui qui veut savoir s'il aime Allah azzawajal et son messager, qu'il regarde s'il aime le Coran, c'est qu'il aime Allah et son messager. Est-ce que tu aimes le Coran? Non. Tu aimes lire le Coran? Tu vénères ce Coran? Dans ce cas, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Car il y a des gens qui n'aiment pas le Coran. Et il y a des gens qui disent que ça ne vient pas d'Allah. Et il y a des gens qui disent que ça contient des contradictions dans le Coran. On a qui disent qu'il y a même des mensonges, il y a des fautes dans le Coran. Il y a ceci, il y a cela. Les rawafid, les chiites, qu'Allah ta'ala les maudisse, disent que yani, ce Coran est falsifié. Au point où quelqu'un qui s'appelle Qummi a écrit un livre spécialement sur cela. Il a dit, dans le titre du livre, il a dit Ayat al-Bayinat fi ithbat tahrif kitab Rabb al-Arbab, ou quelque chose comme ça. Il a dit des signes évidents dans son livre, à peu près, c'est ça son sens. Que le Coran est falsifié. Voilà les signes évidents, il a écrit un livre, A'oudou Billah. Le Coran est falsifié. Donc, si on dit que le Coran est falsifié, donc c'est sûr que si je te dis que notre mère Aïcha n'a rien fait, qu'elle était chaste, et qu'il y a du Coran qui est descendu pour prouver sa chasteté, tu vas me dire non, il est falsifié. Non, le vrai Coran, il est chez le Mahdi, qui est caché dans un garage. C'est lui qui a le vrai Coran. Votre Coran, il est falsifié. Et dans le vrai Coran, il n'y a que Aïcha a fait la zina d'après eux. Que Allah Ta'ala les maudisse. C'est pour ça que Allah Ta'ala les a punis. La plupart de leurs femmes et leurs filles font la zina. Avec quoi? Avec une couverture du mariage temporaire. Voilà, je te donne 1 € et on se marie une demi-heure. Je te donne 2 € ou là 10 € et on se marie 3 jours. Et comme ça. La plupart de leurs femmes et de leurs filles font comme ça. Ça s'appelle le mariage temporaire. Si tu fais pas ça, tu n'es pas rafidi. Tu ne fais plus pas, yani, partie des chiites. Ils ont voilà. Ils ont des bases pour être chiites et rafidis. Il faut, entre autres, par exemple, accepter le mariage temporaire. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est Wallahu alam, je dis Wallahu alam. C'est Allah Ta'ala, la punition d'Allah Ta'ala. Vous avez parlé sur Siddiqatu bint Siddiq, Aïcha, la fille du meilleur homme sur terre. Sur terre. Depuis que j'ai créé les cieux et la terre, c'est lui le meilleur homme après les messagers. Donc vous avez parlé de sa fille, moi je vais vous punir. Et yani, le shaitan va vous embellir la zina. Pour comme ça que toutes vos filles ou la plupart vont faire la zina et dire que non, non, ça c'est l'islam. C'est l'islam qui a dit que vous pouvez faire ça, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Al-Fudayl rahimahullah a dit, bonne annonce, yani annonce la bonne nouvelle à celui qui s'écarte des gens, se rapproche de son Seigneur et pleure sur ses péchés. Annonce la bonne nouvelle pour celui qui s'écarte des gens, se rapproche de son Seigneur et pleure sur ses péchés. Quand on a dit ici s'écarte des gens, c'est pas ne pas aller travailler ou ne pas rencontrer des amis. Non, non, non. Des gens futiles, des gens qui me détournent de mon dîn, des gens qui me parlent seulement du matin au soir de la dunya. du commerce, des habits, la dernière robe, la dernière coiffure, la ceci, cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Petit à petit, il va m'embellir la dunya dans mon cœur. Et Allah Ta'ala n'a donné à aucune personne deux cœurs. Tu as un seul cœur. Ton cœur, tu vas le remplir de dunya. L'au-delà va devenir très très petit dans ton cœur. Il n'y a plus de place. Tellement la dunya a pris de place dans ton cœur qu'il ne reste rien pour l'au-delà. Ou alors, ce qui reste, c'est vraiment minime. Comme dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit par exemple, ceux qui lisent les livres des biographies des savants, je vais lire moi un livre sur Karl Marx, je vais lire un livre sur Pascal, un livre sur je ne sais pas qui, sa vie, etc., je vais m'intéresser, il a dit, dans ton cœur, il n'y aura plus de place pour la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu lis d'autres livres aussi, sur la dunya, tu te remplis, il n'y aura plus de place pour lire le Coran. Quand tu veux lire le Coran, il n'y a plus de place dans ton cœur pour lire. Tu n'es plus intéressé. Et comme ça. Naam. Donc ici, il a dit, moi je m'éloigne des gens, c'est-à-dire des gens futiles, des gens mauvais, ça, mais dans quel but? Je m'éloigne et je vais chez moi et je vais voir je ne sais pas quoi dans la télé. Quelque chose de haram. Non. Je m'éloigne pour me rapprocher de mon Seigneur et pleurer sur mes péchés. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique. J'avais pas ce hadith dans la tête, sinon je l'avais préparé. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wal yas'aka baytuk. Amsik alayka lisan, amlik alayka lisanak. Wal yas'aka baytuk, wabki ala khati'atik. Al-Albani a dit, sahih. Il a donné trois ordres. Il a dit, amlik alayka lisanak. Amlik, yani. Retiens ta langue. Retiens ta langue. Attention, la langue c'est un serpent. La langue c'est un serpent d'un côté, mais de l'autre, ça peut être quelque chose qui te pourrait rentrer au paradis. Mais ça peut se renverser en serpent qui va te piquer et te faire rentrer en enfer. Al-Muhim. Il a dit, alayhi sallam, retiens ta langue. Wal-yasa'ka et que ta maison te suffit. Naam, reste dans ta maison où tu veux aller. Que ta maison te suffise. Naam. Ça veut dire, où est-ce que tu vas comme ça, à droite, à gauche, dans des endroits où tu ne retires aucun intérêt. Reste dans ta maison, que ta maison te suffise. Tu vas dire, qu'est-ce que je reste faire dans la maison? Il t'a dit, comme ce qu'on vient de lire dans le livre, il t'a dit, retiens ta langue, reste dans ta maison et pleure sur tes péchés. Naam. Tu n'as rien à faire. Assieds-toi et commence à compter. Combien de péchés tu as fait dans ta vie? Combien de grands péchés tu as fait dans ta vie? Et prends un mouchoir et commence à pleurer. Pleure et essuie. Pleure et essuie. Pleure et essuie. Demande pardon à Allah. Pleure et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est mieux que d'aller tourner à droite, à gauche pour se remplir de seyyi'at et revenir à la maison. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, il a dit, ô fils d'Adam, aime Allah et il t'aimera. Et sache que tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras lui obéir. Je répète, aime Allah et il t'aimera. Non. Et sache que tu n'aimeras Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque tu aimeras lui obéir. Pour dire que celui qui dit. Celui qui dit j'aime Allah, alors qu'il lui désobéit, c'est quoi? C'est un menteur. J'aime Allah et il lui désobéit. J'aime quelqu'un, j'aime ma femme et du matin au soir je la frappe. Et je la balafre avec un couteau. Et je lui donne un coup de pied, je lui dis, va passer la nuit dehors. Et je lui donne pas à manger. C'est ça l'amour. Si je l'aimais vraiment, je l'aurais gâté. Alors toi, comment d'un côté tu dis j'aime Allah et de l'autre tu l'insultes, tu bois l'alcool, tu n'es pas voilé, tu fais pas la salate, tu dis des choses yani, qu'Allah n'aime pas. Où est donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si vraiment tu l'aimais, c'est d'abord tu aimerais lui obéir. C'est pour ça que certains ont prétendu qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Ta'ala a fait descendre un verset. Afon, ils ont prétendu qu'ils aimaient Allah. Alors Allah Ta'ala a fait descendre un verset. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, ya Rasulallah, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez le prophète alayhi salam et il vous aimera, c'est-à-dire Allah. Donc, l'islam, c'est pas une question de prétention et de dire moi j'aime Allah, j'aime ceci, j'aime cela. Plutôt ne parle pas, mais laisse les actes parler. Laisse tes actions parler. Ce sont elles qui parlent à ta place. On n'a pas besoin que tu dises j'aime Allah ou j'aime le prophète. Laisse-nous voir seulement tes actions. C'est pour ça que les juifs, quand ils ont dit dans un verset, d'ailleurs, ce serait mieux que je cherche les versets. Attendez, je vais vous sortir les versets, c'est mieux. Une seconde, je dois allumer un programme qui cherche les versets. Une seconde. Les juifs, quand ils ont dit que nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, c'est-à-dire, ils ont dit que nous sommes abna'ullah, nous sommes les fils d'Allah subhanahu wa ta'ala et les plus aimés de lui, ou bien les bien-aimés. Attendez, je vais le chercher ici en français. Une seconde. نحن أبناء الله وأحباؤه أبناء الله أبناء الله آه عفوا جاي كري اون فرونسي اون سكوند أبناء الله أبناء الله voilà donc j'ai le verset ici devant moi. Une seconde. C'est un peu difficile pour... Regardez ce verset. Et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah, ses préférés. Allah Ta'ala a dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Si vraiment tu es aimé Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tu étais le préféré, est-ce qu'Allah t'aurait châtié? Hein? Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on aime quelqu'un, on le gâte, ou bien on le châtie, on le gâte. Donc vous vous dites que vous aimez Allah Ta'ala, vous êtes les fils d'Allah et vous êtes les préférés. Si vous êtes ses fils et ses préférés, normalement il vous aurait gâté. Dis pourquoi alors vous châtie-t-il pour vos péchés? Naam. Al-Muhim. Qu'est-ce que je disais, Bak? Donc je disais, tu n'aimeras Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque tu aimeras lui obéir. Muhammad ibn Na'im, rahimahullah, a dit, le cœur qui aime Allah Azza wa Jal aime la fatigue et la peine pour Allah. Car on ne peut parvenir à l'amour d'Allah par le repos. Le cœur qui aime Allah Azza wa Jal aime la fatigue et la peine pour Allah. Car on ne peut parvenir à l'amour d'Allah par le repos. Si vraiment tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu es prêt à te fatiguer, à peiner à cause de lui. Mieux encore, à te sacrifier et à donner tout ce que tu as de plus cher, comme bien, famille et toi-même, pour sa cause. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné tout ce qu'il a de plus cher, c'est son âme, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis ici, plus l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est grand et sincère, et plus tu peux donner. Et moins l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala yani, est grand. Et moins yani, tu peux donner fi sabilillah. C'est-à-dire que quelqu'un qui, deux personnes qui vont faire l'aumône, et les deux, ils sont riches. Quelqu'un donne 100 euros. Et l'autre, il donne 1 euro. Celui qui a donné 100 euros, c'est quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que l'autre. La preuve, j'ai pu donner 100 euros, ça ne m'a fait pas peur. L'autre, il a eu peur. Il a donné seulement 1 euro et il a vu que c'est tout ce qu'il méritait. Et l'autre, il a donné 100. Non. Peut-être qu'il donnerait plus. Subhanallah l'adim. Non. Urwa al-Bariqi rahimahullah a dit, l'amour d'Allah azza wa jalla consiste en l'amour du Coran. Et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam consiste en la pratique de la sunna. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala consiste en l'amour du Coran. C'est pas possible de dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il y a des gens qui n'ouvrent le Coran qu'une fois seulement pendant le Ramadan. Et pendant toute l'année, ils n'ont pas le temps d'ouvrir le Coran. Il y en a d'autres qui disent on est musulman, et qui jamais de leur vie n'ont ouvert le Coran, ni pendant le Ramadan, ni pendant les autres mois. Qu'en pensez-vous? Jamais de leur vie n'ont ouvert le livre d'Allah Azzawajal et ne savent ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que ils sont avides de connaître ce qu'il y a dans d'autres livres, des livres que des gens comme nous ont écrit. Naam, ils lisent avant de dormir. Sur le chevet, il y a toujours un livre, il lit. Alors que la personne qui a écrit ce livre, c'est une personne comme nous, qui est faible, qui tombe malade, qui va aux toilettes, qui vomit, qui ment, qui se trompe quand elle parle, qui ment quand elle écrit. Subhanallah al-Azim est le meilleur livre qui puisse exister dans le monde. Le livre de ton Seigneur, où il y a la guidée, la guidance, la guidée, naam, où il y a seulement yani tes intérêts, où il y a tes intérêts de cette vie et de l'au-delà. Un livre descendu spécialement pour que tu vives, pour que tu vives comme le plus heureux sur terre. Ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Regardez ce verset, on va voir comment il est en français. Ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Une seconde. Non. Regardez comment, qu'est-ce que ça donne en français. Et nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai fait descendre sur toi, ou là sur vous, ou là pour vous, le Coran pour que vous soyez heureux. C'est pas pour que vous soyez malheureux. Donc, quiconque est malheureux dans cette vie, ça veut dire que il n'a pas pris de ce qu'il y a dans le Coran. Naam. Il n'a pas lu le Coran et ne s'est pas contenté, suffit à ce qu'il y a dans le Coran. Sinon, Allah Ta'ala dit que ce Coran est descendu spécialement pour nous rendre heureux. Subhanallah al-Azim. Et il a dit ensuite, l'amour du messager consiste à quoi? À la pratique du sunnah. C'est comme je dis la sunna. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la peine de dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Montre-moi seulement, yani, est-ce que ton physique et tes actes sont conformes à la sunna du prophète? C'est tout. Si ton physique et les actes que tu fais sont conformes à la sunna, tu l'aimes, sans que tu le dises. Même si tu le dis pas, moi je peux témoigner que tu l'aimes. Et le contraire. Yani, tu peux dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne rien appliquer de sa sunna. Et avoir un physique vraiment en contradiction avec ses préceptes. Donc, ça ne te sert à rien de dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es un menteur. Shu'aib ibn Harb rapporte, rahimahullah, il a dit je suis entré chez Malik ibn Maroul, alors qu'il était assis seul chez lui. Je lui ai dit, ne te sens-tu pas seul? Ne te sens-tu pas seul? Il me répondit, quelqu'un peut-il se sentir seul avec Allah? Quelqu'un peut-il se sentir seul avec Allah? Naam, Allahu Akbar, c'est vraiment la réponse qu'il fallait. Naam. Quand je suis seul, moi, je ne suis pas avec mes tentations, avec le shaitan, avec les passions, en train de voir des choses de haram, en train de parler de haram. Non, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien en train de lire son livre, ou bien en train de demander la science, ou bien en train de mentionner Allah, le mentionner avec mes lèvres, ou au moins dans mon cœur. Non. Au contraire, quand tu es dans une situation pareille, et que tu commences à sentir la saveur dans ton cœur, tu souhaiterais que personne ne vienne, yani, t'entraver. que personne ne vienne frapper à la porte pour te faire des embûches. Et rentrer et commencer à discuter de rien, et de la pluie et du mauvais temps, etc. Alors toi, tu étais, masha'Allah, occupé à lire et à apprendre et à mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut être avec des gens, avec une compagnie de gens, et on se sent dans le cœur esseulé. On se sent abandonné. On se sent avec un cœur gros. Alors qu'on est avec des gens, ils sont en train de rire, de dire des blagues, de chanter, de ceci, cela. Mais dans ton cœur, c'est comme si, subhanallah, yani tu as le cœur gros. Donc, pourtant, on est en compagnie. Et le contraire, tu peux être seul, seul, seul dans ta pièce, dans ta chambre, seul. Mais tu te sens le plus heureux, car tu n'es pas seul en fait. Tu es avec ton créateur qui t'a créé, l'âme. Tu es en train de lui parler, de l'invoquer, de l'implorer, l'âme, de lui pleurer. Et comme ça. Non. Utba ibn al-Ghulam, rahimahullah, a dit: Ya Allah, si tu me châties, je t'aime. Et si tu me fais miséricorde, je t'aime. Ya Allah, si tu me châties, ma'alif, je t'aime. Et si tu me fais miséricorde, je t'aime aussi. Al-Fudayl, rahimahullah, a dit: Si, écoutez bien, si, sont semblables pour toi, si sont semblables pour toi le don et la privation d'Allah, alors tu as atteint le sommet de l'amour d'Allah. Non, ça c'est un signe pour savoir si tu as atteint le sommet de l'amour d'Allah ou pas. C'est quoi ce signe? Lorsque les dons d'Allah et ses privations sont pour toi à égalité, c'est-à-dire que Allah Ta'ala te donne ou te prive d'une chose, c'est pour toi pareil. Tu l'aimes toujours. Tu as atteint donc le sommet de l'amour. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aiment Allah Subhanahu wa Ta'ala pour les grâces qu'il leur donne, les ni'mas qu'il leur donne. Mais dès qu'il leur donne un malheur, ou les prive d'une chose qu'ils aimaient, ou leur enlève une chose qu'ils avaient, à laquelle ils tenaient beaucoup, khlas, ils n'aiment plus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ou alors il pense de lui du mal. Subhanallah. Donc tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala seulement pour tes intérêts. Naam. Seulement, si tu veux savoir si tu as atteint le sommet de son amour, c'est lorsque il te donne ou il te prive, c'est la même chose pour toi. Dans ce cas, tu as vraiment atteint le sommet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haram ibn Hayyan, rahimahullah, a dit, pas un serviteur ne s'est tourné par son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah ne tourne les cœurs des croyants vers lui jusqu'à lui accorder leur miséricorde. Subhanallah, pas un serviteur ne tourne son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala sans que la récompense soit quoi? Sans que Allah ta'ala ne tourne les cœurs des croyants vers lui, jusqu'à lui accorder leur miséricorde. Toute personne qui tourne son cœur à 100% vers Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement vers lui, verra quoi? Verra que Allah subhanahu wa ta'ala fera tourner le cœur de ses créatures, surtout de ses serviteurs pieux, envers la personne qui a tourné son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu vois que tu aimes des gens que, yani, peut-être tu as rencontré une seule fois. Tu aimes des gens qui n'ont rien de spécial pour être aimés. Je veux dire rien de spécial de la dunya. Ne sont ni riches, ni ont des postes dans des sociétés, dans des ministères, ni rien, ni des généraux, ni rien. Et tu les aimes. Subhanallah, pourquoi? Ce sont des gens pieux. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a récompensé, qui veut récompenser cette personne en faisant tourner les cœurs des créatures envers cette personne. Non. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset: Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu Allahu lahum wudda. Sayaj'alu Allahu lahum wudda. Ça donne dans le verset. Bon, pour que j'écrive. Allahu lahum ouda. إن الذين آمنوا سيجعل الله لهم ودا سيجعل الله سيجعل سيجعل الله لقيتها لا فانتحة لي با تخوفي سي سيجعل لهم الله لهم الله نغلط الرحمن الرحمن قالوا لهم الرحمن بارك الله فيك الرحمن سي بوغ سا جي با تروفي لو فيرسي نعم فوالا فوالا الفيرسي ان شاء الله تعالى نعم كي يعني اكسبيك سكو جو فولي دير لا فان سورة الرحمن à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur accorder son amour. Et comme vous savez dans le hadith authentique, Allah Ta'ala va appeler Jibril. Et il lui dit, Jibril, j'aime X des gens, il va te citer avec ton nom. Aime-le. Ordre. Ordre de l'aimer. Alors Jibril va appeler ensuite les anges, il va leur dire, Allah Ta'ala a aimé X. Et, yani, aimez-le vous aussi. Ensuite, Allah Ta'ala va faire descendre quoi? L'amour. L'amour de cette personne dans les cœurs des gens. Dans les cœurs des gens. Subhanallah al-Azim. Tu veux, sans que tu le veuilles, à aimer une personne que tu ne connais même pas. Subhanallah, juste parce que cette personne est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a aimée. Yathir rahimallah a dit, nous avons observé et n'avons pas trouvé de grande délectation, de grande joie que l'amour d'Allah Azza wa Jal et la recherche de son agrément. Il n'y a pas une plus grande joie que dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de son agrément. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de toi. Il n'y a pas une plus grande joie que celle-là. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خير مما يجمعون. نعم. Dit, de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi les gens devraient se réjouir. Ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Cheikh Saadi rahimallah a dit, ici, la grâce d'Allah, il a dit, c'est le Coran. Et sa miséricorde, il a dit, c'est l'islam et l'iman. Il a guidé. Nam. Il a dit, c'est de cela que la personne devrait se réjouir. Qu'elle lise le Coran, qu'elle ait été guidée, qu'Allah Ta'ala l'ait aidée à la faire entrer en islam. Et que maintenant, elle puisse lire le Coran. Non, elle a la foi, elle fait la prière, elle obéit à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà de quoi toute personne devait se réjouir, devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce que tu peux amasser dans cette vie. Tout ce que tu peux amasser. Si tu n'as pas la foi, il n'y a pas l'amour d'Allah, son obéissance, tu n'as rien gagné. Au contraire, toutes ces choses vont se renverser contre toi. C'est pour ça que plusieurs milliardaires se sont suicidés et se suicideront jusqu'à la fin du monde. Des milliardaires. Pourquoi ils se suicident? Il a tout. Il n'a pas quoi? Il n'a pas la grâce d'Allah et sa miséricorde. Il n'a pas la grâce d'Allah et sa miséricorde. Il n'a pas un apaisement dans le cœur. L'argent, tout l'argent du monde, tous les biens du monde, ne donne pas quoi? Ne donne pas l'apaisement du cœur. Sauf la grâce d'Allah et l'amour d'Allah, il imène, qui donne l'apaisement du cœur. D'où tu trouves un milliardaire qui se suicide. Et quelqu'un de très pauvre et impieux, qui se sent le plus heureux. Qui se sent le plus heureux. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, من أصبح آمنا في سربه. Il a dit, quiconque de vous se trouve en sécurité chez lui. من أصبح آمنا في سربه. معافا في جسده. il se trouve préservé dans, yani dans son corps. يَمْلِكُ قُوتَ يَوْمِهِ. Et il possède le bien de sa journée. Il a dit, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. Il a dit, c'est comme si toute la dunya, yani, cette personne l'a possédée. Subhanallah al-Azim. Si tu as trois choses seulement, c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre avec la balance que tu as dans ton cœur de l'islam. C'est pas, tu vas peser sur, yani, des concepts des kofars. Non. Pour le kafir, pour être heureux, il faudrait que tu aies toute la dunya. Mais regarde le prophète, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est comme si tu avais toute la dunya, si tu as trois choses. Tu es en sécurité chez toi. Ton corps, non, tu n'as pas de problème, yani, dans ton corps. La santé, alhamdoulilah. Comme il a dit, alayhi sallam, il a dit, ni'matan marbounun fihi ma katirin minnas. Il a dit, il y a deux ni'mas que les gens, yani, qui disons, se renversent contre les gens. Il a cité la santé. Donc, je reprends, il a dit trois choses. Sécurisé chez toi. Tu as la santé et tu possèdes le bien de ton jour. Ton jour, pour les gens qui cachent pour des années et des années. Il a dit, si tu as le bien de ton jour, hein, et la santé, tu es sécurisé chez toi, c'est comme si toute la dunya tu l'avais. C'est toi le plus heureux. Donc je disais, Allah Ta'ala a dit, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'il devait se réjouir. C'est pas d'autre chose. C'est pour ça que Allah Ta'ala a cité que le peuple de Corée, de Qarun, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont dit, lorsque Allah Ta'ala a dit, Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu min kunuz, ma inna mafatiha wa latanu bil usbati uli al-quwwa id qala lahu qawmuh. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? La tafrah, inna Allah la yuhibbu al-farihin. La tafrah, inna Allah la yuhibbu al-farihin. En vérité, Corée, Qarun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens. Une bande de gens ne pouvait pas prendre la clé pour ouvrir l'armoire où il y avait des trésors. Son peuple, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne te réjouis pas. Donc, pour dire que c'est pas de l'or qu'on devrait se réjouir. Non, ne te réjouis pas. On devrait se réjouir si on avait la grâce d'Allah. Il imène, et on fait la prière à l'heure, et on obéit à Allah, et on a peur de lui. Là, je me réjouis. Je dis, alhamdoulilah, pour cette grande ni'ma. Quant à amasser, yani, ce qu'il y a dans cette vie, ça ne donne pas le bonheur. Ça ne donne pas le bonheur. Non. Taïeb, on a tardé aujourd'hui un peu. Je vais sauter encore, je vais sauter des choses. Nature, je vais lire encore deux ou trois choses. Abdullah ibn Zakaria a dit, rahimahullah, il a dit, si on me donnait à choisir entre vivre 100 ans dans l'obéissance d'Allah Azzawajal, ou bien mourir dans la journée ou bien dans l'heure, je choisirais de mourir dans la journée ou dans l'heure. Pourquoi? Par acte de rencontrer Allah, son messager et ses serviteurs pieux. Celui-là, bien sûr, c'est pour les gens pieux. Les gens pieux, ce sont eux seuls, qui, des fois, dans leur cœur, souhaiteraient qu'ils meurent. C'est interdit de souhaiter la mort, vous savez. C'est interdit de la demander. Mais si dans ton cœur seulement tu voudrais mourir, ce n'est pas interdit. Mais qui voudrait mourir? Même dans le cœur, qui voudrait penser à ça? Seulement ceux qui sont vraiment, yani, proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont, yani, ils ont hâte pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont soucieux de le rencontrer. Enfin, tandis que les autres, non. Ils voudraient vivre le maximum. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset. Il a dit, فَتَمَنَّوَ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Il a dit, si vous étiez sincères, alors vous auriez demandez la mort. Si vous étiez sincère, vous auriez demandé la mort. Il a dit ça aux enfants d'Israël. طيب، عاصم ابن محمد العمري رابورت دو سون بير، il a dit je n'ai jamais entendu ابن عمر رضي الله تعالى عنه mentionner الله، عفوا mentionner le prophète عليه السلام sans pleurer. Je n'ai jamais entendu Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans pleurer. Amir ibn Qais rahimallahu a dit j'ai aimé Allah azza wa jal d'un amour qui a rendu aisé toute épreuve et m'a fait agréer toute chose. Ainsi, avec l'amour que je porte en Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce qui m'arrive, au soir ou au matin. Naam. Peu importe ce qu'il m'arrive. L'essentiel, je sais que ça vient d'Allah. Et moi, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je l'aime, je pense du bien de lui. Je sais que il ne m'a pas fait du tort. Ma maison a été brûlée. En revenant du travail, je trouvais ma maison brûlée ou volée. Il ne m'a pas fait du tort. Je mérite cela. Je mérite plus, alhamdoulilah, que le feu ne m'a pas atteint moi. Il a atteint seulement ma maison. Sinon, de par les péchés que je fais, je mérite plus que cela. Allah Ta'ala ne m'a pas fait de tort. Naam. Quoi qu'il m'arrive, naam, ça n'a pas d'importance. Que ce soit un bien ou un mal. Je sais que je ne sors jamais de mashi'at Allah, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis son serviteur. Alors qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Ce n'est pas moi qui va lui suggérer ce qu'il doit faire, ni lui apprendre ce qu'il doit faire, ni l'orienter. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui sait ce qu'il doit faire de moi. Non. Abu Razin rahimahullah rapporte, il a dit, on demande à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala, écoutez ce qu'on lui demanda. On lui demande, Afoun, c'est pas Abdullah, Al-Abbas. On lui demanda, qui de toi ou du prophète alayhi sallam est le plus grand? Qui de toi ou du prophète sallam est le plus grand? Il répondit, il est le plus grand et je suis né avant lui. Qui est le plus grand, toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, c'est lui le plus grand. Pourtant, je suis né avant lui. C'est-à-dire que même si moi je suis plus âgé que lui, non, mais je ne peux pas dire que je suis plus grand que lui. C'est un prophète. C'est lui le plus grand. Je ne peux pas dire que je suis plus grand que lui. Je peux dire seulement que je suis plus âgé que lui, mais pas plus grand. Regardez comment qu'il respectait le prophète alayhi salam, au point de ne pas pouvoir dire que je suis plus grand que lui. Non. Et enfin, pour terminer, je vais terminer avec ça. Un pieux prédécesseur, rahimahullah, a dit que bien manquer à celui qui trouve Allah. Et que peut bien trouver celui qui a perdu Allah ou le perd Allah. Je répète, que peut bien manquer à celui qui trouve Allah. Tu as trouvé Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étais dans les tréfonds des ténèbres. Tu étais dans le gouffre. Tu étais sous terre. Tu étais un mort. Comme ça dit Allah Ta'ala des kuffar, qu'ils étaient des morts. Et maintenant tu as trouvé Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il peut donc te manquer? Qu'est-ce qu'il peut donc te manquer? Et est-ce que les choses qui te manquent valent quelque chose comparé à la foi, comparé à l'islam, comparé à l'iman, comparé à l'amour d'Allah? Ce qui t'attend demain quand tu vas le rencontrer, bidillah? Et le contraire, et que peut bien trouver celui qui a perdu Allah ou là, qui perd Allah, celui qui n'a pas connu Allah, celui qui n'a pas été guidé, celui qui est toujours dans le coffre, toujours dans l'égarement. Naam. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Naam. Est-ce que si on va lui donner tout ce... Est-ce qu'il sera heureux? Il sera heureux quelque temps. 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et la fin, c'est quoi? Un mètre sous terre. Qu'est-ce qui l'attend là-bas? Et les serpents qui l'attendent. Naam. Et le châtiment qui l'attend. Et le supplice qui l'attend. Et la colère d'Allah qui l'attend. C'est seulement dans la tombe. Qu'est-ce qu'il attend après quand il va rencontrer son Seigneur? Alhamd, qu'est-ce qu'on dit? On dit le verset Alhamdulillah illadhi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Je vais chercher ce verset en français et on termine inshallah ta'ala. Alhamdulillah illadhi hadana li hada. Alhamdulillah illadhi hadana li hada. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله جي با انكور تروفي اون الحمد لله الذي هدانا الحمد لله une seconde. Voilà le verset avec lequel, inshallah ta'ala, on va. Donc là, ta'ala, avant de faire entrer les gens au paradis, il va enlever toute la rancune de leur poitrine. Et sous eux couleront des ruisseaux. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Alhamdulillah, illadhi hadana lihada. Alhamdulillah, louange Allah qui nous a guidés à ceci. Et nous n'aurions pas été guidés si Allah ta'ala ne nous avait pas guidés. Naam. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Qu'est-ce qu'on va leur dire donc? Voilà le paradis que vous avez donné, ou que vous aurez en héritage pour ce que vous faisiez. Naam. Donc premièrement, Alhamdoulilah qui nous a guidés. Deuxièmement, s'il ne nous avait pas guidés, jamais on serait guidé. Et troisièmement, on va hériter, quoi? Un paradis, Yawm al-Qiyamah, tu vas l'hériter. En contrepartie de quoi? De ce que vous faisiez. Ce que vous faisiez. Non, il faut faire الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. C'est pas seulement espérer et prétendre, non, faire. Voilà le paradis que vous avez donné votre héritage pour ce que vous faisiez. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas, il aura peur. Ça lui suffit pas qu'il dise, c'est tout. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans un autre verset وَنُودُ أَنْتِكُمُ الْجَنَّةِ التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Une seconde. أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. On va terminer avec ce verset, inshallah ta'ala. Une seconde. تعملون. Une seconde. ونودو أنتكم الجنة. ونودو. ونودو. Peut-être comme ça je vais trouver le verset. ونودوا أن تكونوا الجنة أورثتموها ونودوا أن تكونوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أورثتموها. Des fois c'est pas écrit comme il se faut. C'est pour ça que ça marche pas. Cherche. Sinon, je vais voir ce verset. Une seconde. Tel est ce paradis. Voilà le verset, inshallah ta'ala. On termine avec ce verset pour dire que le paradis, on ne l'hérite pas seulement en parlant, mais en faisant. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Naam, il faut faire pour le paradis. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure à peu près. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma fiche mouchkin, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Muslim, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Muslim, la fois passée, on m'a parlé, toi et moi, en privé. On parlait d'une personne qui parlait d'aide pour la da'wah, etc. Si tu te rappelles. Naam. Cette personne dit que C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le salon parce que du Maroc, il n'y a pas comment accéder au salon. Mais elle suit elle avait dit qu'il y avait un lien sur le cours, j'ai pas très bien compris, mais elle-même. Est-ce que tu peux savoir si cette personne est là ou pas? Ça ne marche pas. Non. Non, mais elle est là. Et comment qu'elle est là et ça ne marche pas? Comment ça ne marche pas et qu'elle est là? Elle entend. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعم. Puisque le cours d'aujourd'hui, comme vous avez remarqué, il y avait une grande partie que yani, ça parlait de la da'wa et de comment propager la da'wa et l'obligation de la propager et yani, qu'est-ce qu'il y avait comme rétribution demain quand la personne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce contexte, je dis, il y a avec nous, il y a une sœur du Maroc. Cette sœur, alhamdoulilah, elle fait la da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert le cœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, quelque chose de très simple, mais Allah ibarak, Allah ibarak. Et yani, Allah subhanahu wa ta'ala yani, n'a pas donné cette grâce à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit, disons, les dépliants. Dépliants. Les dépliants de quelques pages, deux, trois feuillets comme ça. Et elle des choses comme ça sur le shirk. Le shirk, sans dessiner le visage, bien sûr, ou la tête des gens comme ça qui tournent autour des tombeaux et demandent le wali au lieu de demander Allah et disent il y a wali, il y a ceci, il y a cela. Et ensuite, elle va au mausolée, au Maroc. Vous savez que c'en est plein. C'est comme en Algérie ou là, en Tunisie ou là. Mais au Maroc, en Algérie, yani, c'est les deux pays d'Afrique, je crois, où il y a le plus. Et elle va là-bas au mausolée et elle distribue ses dépliants où ça parle de tawhid et ça marque, ça montre à la fois les déviations, les égarements des gens et beaucoup de gens, bi'idhnillahi ta'ala, l'écoutent et reviennent vers le haqq, bi'idhnillahi ta'ala. Nah. Donc cette personne dit que pour les dépliants, elle a besoin un peu d'argent. Car elle a besoin de commander 90 dépliants, car elle les imprime. C'est pas elle, elle a l'imprimerie. Donc elle les imprime, elle a besoin de 80 dépliants. Ce qui donne 100 euros. Elle a besoin de 100 euros pour 80 dépliants où il y a la da'wa au tawhid. Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui veulent participer, à lui collecter 100 euros. Et, Inch'Allah ta'ala, en participant, vous êtes, yani, c'est une porte que Allah ta'ala vous ouvre pour faire la da'wa au tawhid, subhanallah l'adhim. Surtout pour la personne qui ne sort pas, qui ne parle pas beaucoup avec les gens, qui est timide, qui ne fait pas la da'wa, qui a des enfants, qui est occupé, qui est ceci, cela. Voilà une occasion, na'am, de, yani, propager la da'wa en donnant seulement quelques euros à cette sœur. Et la sœur dit, si jamais l'argent qui m'arrive dépasse les 100 euros, d'autres seront donnés. Fi sabilillah bi'idhnillahi ta'ala. Il y a quelqu'un qui dit ici, je veux donner, quelqu'un qui vient de dire, je donne 100 euros pour ce but bi'idhnillahi ta'ala. Allah ibarak fi malik. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ton argent. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ton argent et multiplie des gens comme toi qui y en est. Veulent travailler fi sabilillah. Sûrement que, il y en a parmi vous beaucoup qui voudraient aider. Et que même s'il y en a parmi vous qui n'ont, qui voudraient s'ils avaient. Ils en ont nié et dit si j'avais, j'aurais donné. Ceux-là aussi, inshallah ta'ala, ils seront récompensés. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, l'akh Mohamed, tu vois, inshallah ta'ala, comment contacter cette sœur pour lui donner cet argent, inshallah ta'ala. Fadal l'akh Muslim, inshallah ta'ala, pour la première question.
Donc première question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve et augmente votre science et récompense en bien les admins pour leurs efforts. Vous avez parlé de tablir, qui prêche sans science. Qu'Allah les guide. Que doivent faire les responsables des mosquées lorsqu'il y a des tablirs qui désirent rester, par exemple, 4 jours dans la mosquée? Doivent-ils les interdire de parler seulement? Ou doivent-ils leur interdire de rester dans la mosquée, sauf pour l'accomplissement des prières en groupe? Tfadal, cher.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En fait, les tablirs sont des égarés. Ils sont dans l'égarement et propagent l'égarement et appellent les gens à l'égarement et au shirk. Et ils disent que c'est pas la peine d'apprendre la science, ça suffit de lire Riyad Salihin et ils ne veulent pas apprendre le tawhid. El Mohim. Pour quelqu'un qui est responsable de la mosquée, il doit leur interdire quoi de propager. S'ils veulent prier, c'est interdit d'interdire à un musulman de prier dans la mosquée. S'il vient pour prier, d'accord. Mais s'il vient pour faire des rassemblements, naam, et dans le but de préparer la da'wa, leur da'wa et de faire la da'wa, etc., il faut les arrêter tant qu'il n'y a pas de fitna. Si tu sais que ça risque d'aller loin, ça risque d'arriver au commissariat, ça risque d'être dans les journaux, etc., yani, il faut être prudent et aller doucement. Mais tant que tu sais que les clés de la mosquée sont entre tes mains et que tu peux fermer la mosquée quand la prière est terminée, il vaut mieux yani, fermer la mosquée et ne pas les laisser propager leur bid'a. Naam, tfadla inshallah ta'ala.
Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum. Hayakum Allah, cher. Vous aviez dit qu'il y avait trois catégories de savants. Pouvez-vous les redire, Barakallahu fikoum, cher? Tfadat, cher.
Une seconde, je dois chercher, inshallah ta'ala, dans le livre. Je me rappelle que le premier savant, c'est celui qui a la science et qui fait profiter les gens avec sa science. Le deuxième, c'est celui qui a la science et qui ne fait pas profiter avec sa science. Et je crois le troisième, c'est celui qui n'a pas de science. Une seconde, je vais vérifier. Une seconde. Une seconde. Les savants. Je répète, les savants sont de trois catégories. Celui qui a vécu avec sa science en faisant profiter les gens. Donc il a la science, il fait profiter les gens. Le deuxième, celui qui a vécu avec sa science, il a sa science sans en faire profiter les gens. Et le troisième, celui qui a fait profiter les gens de sa science tout en se conduisant à la perte. C'est-à-dire, le troisième, il a la science, mais il la propage, etc. Mais lui ne l'applique pas. Lui ne l'applique pas. Naam. Tfadal.
Question suivante, qui est assez longue. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour nous faciliter l'accès à la science. Allahumma barak. Il y a peu, je suis tombé sur une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui stipulait que le fait de cocher les cases d'un tableau concernant les actes d'adoration et de faire un bilan tous les mois, c'est un bilan mensuel sous forme de tableau que la personne utilise pour calculer ses actes, était une bid'a. Ainsi, je voulais savoir si cette fatwa s'applique au fait de suivre un programme d'apprentissage du Coran en cochant un tableau à chaque rubu' appris et en indiquant combien de fois nous avons répété les versets appris sans regarder le Coran. Et ceci pour que notre professeur puisse constater le travail fait et non pour faire un bilan mensuel ou autre. Barakallahu fikoum par avance pour votre réponse qui me sera d'une grande aide car justement en ce moment dans ma classe tout le monde travaille sur un livre de Cheikh Abdelrazzak. Je n'en sais pas plus concernant l'auteur et celui-ci coupe le Coran par rubu' chaque semaine correspondant à un rubu'. Et dans une semaine, il y a 4 jours consacrés à l'apprentissage, etc. Donc là, je pense, cher, Je ne pense pas que ce soit important pour la réponse apportée. Non, si vous avez besoin du reste, de toute façon, je vous l'envoie en PV. Tradachère. Cher. Et il y a un lien également sur la question, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider, nous guider davantage et nous donner la sincérité, la sincérité. Naam. Je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, que en ce qui concerne l'apprentissage du Coran, que si quelqu'un veut yani, faire comme ça un petit programme pour lui-même, hein, c'est pas un programme qu'il doit dire, par exemple, c'est comme ça qu'on doit apprendre le Coran ou là. Non. C'est pour moi-même, juste pour que j'apprenne et pour retenir, yani, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est pas ce qu'a voulu dire Cheikh Ibn Uthaymeen. Par le Coran, pour l'apprendre, yani, y a des gens qui mettent comme ça des repères personnels. Chacun a ses repères. Chacun a ses repères, comment ne pas comprendre en tel verset, tu sais, comment voir où je suis, etc. Pas la preuve. Le Coran lui-même, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'ont partagé comme il est maintenant. Juz, ensuite Rab, ensuite Thumn, ensuite Nisf, et comme ça. Mais ce sont des repères pour que la personne sache, yani, si je puis dire, si elle veut apprendre, que ça c'est un quart, ça c'est un demi, ça. Non. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dont yani, tellement il facilite pour ceux qui veulent apprendre le Coran, on lui a posé la question suivante. On lui a dit, que pensez-vous des gens qui, pour apprendre, ils doivent s'asseoir et en même temps, quand ils sont en train de réciter, ils doivent balancer le dos. Ils balancent le dos en montant et en descendant. Vous voyez comme on voit dans les gens de la bid'a, etc., qui restent comme ça en groupe et commencent à lire le Coran en groupe et ils descendent le dos. Et il monte. Vous voyez, quand il lit comme ça, il descend. Non. Il a dit, si la personne, non, s'est habituée à cela, à ce que elle ne peut pas apprendre ni mémoriser si elle ne fait pas ce geste, si elle ne monte pas comme ça avec son dos et elle descend. Il a dit, c'est permis. C'est permis, non, car elle veut apprendre le Coran et faire descendre le dos et le faire monter. Il a dit, c'est pour elle, il y en a une aide. Elle a appris comme ça, ou bien on lui a appris comme ça depuis jeune. Nam, il a dit, donc maintenant pour elle, yani, c'est permis. Pourtant, je vous ai dit que yani, ce sont les mubtadi'a qui s'assoient comme ça en groupe et font cela. Donc, qu'en est-il maintenant pour quelqu'un qui veut, pour lui-même comme ça, yani, faire des repères et cocher qu'il a appris ceci, qu'il lui reste cela. Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala, Wallah subhanahu wa ta'ala, même que c'est permis. Nam, tfadla, cher. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous m'entendez, musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, si vous avez remarqué, pour qu'on mémorise vite et qu'on apprenne, vous voyez combien il y a de hadiths, par exemple, où il y a des chiffres. Combien de hadiths? Beaucoup. Hein? Sept personnes seront ombragées sous l'ombre d'Allah. Il cite sept. Il aurait pu ne pas citer le chiffre. Il dit, il y a un groupe de personnes qui seront ombragées. Non, celui qui fait ceci, celui-là, et il va dire 7 sans citer le numéro 7. Mais il te dit 7 comme ça pour mémoriser. Donc il y en a 7. Comme ça, je peux compter. 1, 2, 3. Si je trouve seulement 6, il me manque quelque chose. Il me manque le septième. Pour que je cherche, je vais trouver par exemple si la personne qui a pleuré quand elle était seule, pleuré en Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple. Il dit, le munafiq, l'hypocrite, a quatre signes. Naam. Il dit trois choses. Si elles sont dans le cœur du croyant, naam, il va trouver la saveur de la foi. Naam. Il dit, profite de cinq avant cinq autres. Profite de ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton vide avant d'être occupé. Et comme ça. Et il cite des numéros, des chiffres. Pourquoi? Spécialement pour que tu mémorises, Inch'Allah Ta'ala. Donc ça, c'est la continuité de la première question, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla.
Une question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah ya cher. En rapport avec le cours, inshallah, un frère qui ne veut pas d'autres enfants sous prétexte qu'il veut partir faire des études. Talibu ilm. Du coup, il ne veut pas que sa femme reste ici enceinte seule, qu'elle tombe donc enceinte. Ils ont déjà un enfant et il dit aussi qu'il veut aller faire du repérage dans un pays musulman et avoir donc un autre franc. Et avoir donc un autre enfant serait un frein. Est-ce des raisons valables en sachant que la femme n'est pas OK et elle voudrait un autre enfant? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ajma'in. Tfadda cheikh.
Walaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. En fait, vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il demande que on devrait se yani, multiplier. Nam. Takatharu. Ça, il a dit que yom al-qiyama, yani, il va quoi? Yani, yubahi bin al-umam. C'est-à-dire que toutes les autres communautés, yani, vont nous regarder, il va dire, regardez ma communauté, combien qu'elle contient, mashallah, de musulmans. Non. Je dis, pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une raison valable, yani à 100%. Ce n'est pas une raison valable à 100%, surtout que cette famille n'a qu'un seul enfant. Un seul. Non. Donc il est possible que le deuxième, non, ramène avec lui un grand khair. Car toute personne, le tout bébé qui vient, ramène avec lui ses biens. Tout bébé qui vient, il ramène avec lui ce que Allah Ta'ala va lui écrire comme rizq. Tout bébé, Allah Ta'ala lui écrit quatre choses, comme vous savez. Entre autres, le rizq. Donc peut-être ce bébé qui va venir va ramener avec lui, masha'Allah, des biens. Non, mais rizq matériel. Hein. Et peut-être qu'il va ramener, masha'Allah, de la science. Peut-être qu'il va être, masha'Allah, un savant. Peut-être que Allah Ta'ala va faire de lui une personne bénie. Masha'Allah, Mubarakan. Et grâce à lui, Inch'Allah Ta'ala, peut-être beaucoup de choses, de difficultés vont s'éloigner. Donc je dis au Allah subhanahu wa ta'ala que ce n'est pas yani, une excuse vraiment solide. Naam, tfadla.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, hayakumullah wa jazakumullah khairan. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui passe toute sa journée à apprendre sa religion, qui a beaucoup de facilité à faire des adorations surérogatoires, comme les jeûnes du lundi et jeudi, mais qui n'arrive toujours pas à être assidue à l'une des prières obligatoires? Pourtant, elle fournit tous les efforts pour l'être, mais sans résultat. À cause de cela, cette personne a arrêté d'invoquer Allah, ne demandez plus rien, car elle pense que c'est de l'hypocrisie de demander à Allah le pardon ou autre chose, alors qu'elle n'obéit pas à l'un des piliers les plus importants. Pourriez-vous la conseiller? Barakallahu fikum. Tfadal cheikh.
La personne a dit que elle n'était pas assidue à l'une des prières obligatoires. Le temps que je réponde, Inch'Allah Ta'ala, le temps que tu nous lises la question qui suit, tu demandes à cette personne quelle est cette prière exactement à laquelle elle n'est pas assidue. Si elle nous dit, Inch'Allah Ta'ala. Et Inch'Allah Ta'ala, l'autre question.
Non, donc je demande à la sœur qui a envoyé cette question de m'envoyer donc la prière concernée en PV, Inch'Allah. Donc question suivante, qui est un peu longue. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher et les admins. Wa barakallahu fikum pour votre aide. Fillah. Cher, mon mari, vivons ensemble depuis septembre. Il a 20 ans, pareil pour moi. En ce moment, il ne travaille pas. Quand il travaillait, ce n'était que quelques soirs par semaine. Je porte le sitar et de ce fait, je ne sors pas de chez moi. Si ce n'est que quand mon mari trouve un frère qui pourrait me déposer chez mes parents. Entre parenthèses, quand je sais qu'une sœur a fait telle et telle chose avec son mari, cela me fait quand même du mal car je ne peux rien faire car mon mari n'a pas de voiture. Aujourd'hui, il est allé faire du cheval et hier, il est allé au zoo. Mais avec des frères. Je n'ai pas arrêté de lui envoyer des messages après sa journée pour lui dire de rentrer passer des heures de code pour son permis au lieu de rester à la librairie à discuter. Cela ne lui a pas plu. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais quand mon mari me pousse à bout, Avec les critiques, humiliations et les rabaissements, je m'énerve et lui demande de me laisser tranquille, mais il continue encore et encore sans arrêter. Et il dit exprès ce qui me déplaît, critiquer mon père qui n'est pas du minhaj, me dire qu'au Jama'a il y a une dizaine de femmes qui voudraient de lui, la moustane, dans la rue que les femmes des frères sont meilleures que moi, etc. J'avais déjà lu que les femmes des compagnons, quand leur mari les énervait, elles ne disaient rien. J'essaye le plus souvent, mais je n'arrive pas au bout de 2 heures d'insultes et plus. Avant, il ratait la prière du Maghreb alors qu'il pouvait la voir, juste parce qu'il était assis devant moi à m'énerver. Il m'empêchait de passer faire mes ablutions à ce moment-là. Je l'ai poussé et crié de me laisser. Il n'a retenu que ça et m'a dit qu'il allait me faire regretter cela, m'humilier, me faire la misère. Que dois-je faire? Cela a commencé quasiment dès le début du mariage et à la longue je commence à changer de comportement et de ne plus le supporter. Les frères lui ont déjà parlé, mais rien à faire. Et avant, quand je l'ai poussé, puis il dit de me laisser, j'ai juré de ne plus lui adresser la parole. Allah Moussa, tfadal cher.
Alaykoum salam, wa Abu Salma II, Abu Salma II, Alika, non, Akh Mohamed Alika, alayhi salam. Abu Salma II, Hayakallah. Entre parenthèses, Abu Salma II, Abu Salma II, entre parenthèses. Cela fait une semaine à peu près que ton épouse avait téléphoné à mon épouse sur mon téléphone. Et mon épouse était absente. Alors j'ai envoyé à ton épouse le numéro de mon épouse sur SMS. Et je pense qu'elle l'a pas remarqué. Donc dis-lui de voir son téléphone. Yani, ça fait à peu près une semaine, elle va trouver mon SMS qui porte le numéro de téléphone de mon épouse, bi'idhnillahi ta'ala. Non, car puisqu'elle lui a pas parlé, donc je me suis dit, elle n'a pas remarqué le message. Wallahu a'lam. Quant à la question de ce qu'on vient de lire maintenant, inshallah ta'ala. Voilà, barakallahu fik. Donc, la personne qui a posé, je vais pas dire qui a posé la question, mais qui a exposé sa situation sociale, comme j'ai dit la fois passée, situation sociale. Donc, dès au début, elle a dit 20 ans. Allez, quoi, allez, salam. Jazakallahu khair. Qu'elle avait 20 ans, qu'il avait aussi 20 ans. Non, à 20 ans, comme vous savez. Naam, c'est bien sûr le moment de se marier, mais on est encore jeune. Naam, on est encore jeune et même, très jeune, et qu'il y a des choses pareilles, arrivent sans étonnement. Mais ce qui n'est pas bien ici, d'ailleurs en thèse, on a entendu que la sœur ce qu'elle a dit, on n'a pas entendu lui ce qu'il a dit, hein, ce qu'il pourrait aussi dire d'elle. Allahu alam. Mais d'après ce qu'elle dit, elle. Si lui, il est comme ça, au moins, dans la salat, il joue pas. Au moins, dans la salat, il joue pas. Comment se fait-il que yani, il la gêne pour faire le wudu et que, à cause d'elle, il retarde sa salat et yani, il l'énerve comme ça. Un homme, un époux, ne devrait jamais rabaisser sa femme, son époux, en lui parlant de sa belle famille. C'est-à-dire sa famille à elle. En lui disant que c'est comme ça, et ta mère est comme ça. Ni l'épouse ne devrait dire ça à son mari. Aucun mari n'accepte qu'on parle de ses parents, même s'ils ne sont pas bien. Et aucune épouse n'accepte qu'on parle de ses parents à elle, même s'ils ne sont pas bien. Sauf si on parle dans un contexte d'un côté religieux et de l'autre plein de douceur. C'est-à-dire que. Quand je parle à ma femme de son père qui n'a pas le minhaj ou là, je lui parle comme quoi il me fait de la peine. Comme quoi, si c'était possible, j'aiderais ton père. Comme quoi, je ne sais comment faire pour yani, l'orienter, pour qu'il aille vers le bien, pour qu'il délaisse ce mal. Et ça. Voilà, surtout que la plupart de nos parents ne sont pas dans le minhaj. Qui maintenant? Il y a des parents dans le minhaj. Qui? C'est très rare. C'est très rare. Si on commençait donc à se Si on commençait donc à dénigrer, il y a nos parents mutuels, classe, il n'y aura plus de vie de couple, on va vite se quitter. Non. À la rigueur, quand quelqu'un parle des parents de l'autre, qu'il parle dans un contexte où il veut montrer qu'il les aime, voudrait les guider. Non. Et non pas les dénigrer comme ça et dire tes parents sont ceci, sont cela. Allah yahdina jami'an. Et je dis à cette sœur et ma fille, celle-là, de patienter, inshallah ta'ala. De patienter, bi'idhnillahi ta'ala. Là, comme dans le hadith que peut-être elle connaît, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que entre, y a en ce sens, que la meilleure des femmes, celle qui, lorsque son mari était énervé, elle, y a met sa main dans sa main et dit que je ne serai ravi que lorsque je serai, que tu es ravi, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Donc elle patiente, inshallah ta'ala, avec ce mari et fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, le guide davantage et qu'il corrige son comportement. Et qu'il corrige son comportement. Car l'islam, c'est le comportement. L'islam, à part les adorations, c'est aussi le comportement. Le modèle, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il apaise vos deux cœurs et vous unisse. نعم دون سكي غافي الله سبحانه عز وجل تفضل
Ah, monsieur, je vous ai répondu sur le salon pour la salat. La salat dans l'autre question, c'est salat al-fajr. Tfadal, cher.
j'ai pas vu non j'ai pas remarqué je dis à cette personne que quand elle dit que à cause de rater la salat al-fajr qu'elle n'arrive pas à la prier etc qu'elle se sent hypocrite etc je lui dis tu te trompes beaucoup. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai cherché moi quelle était la salat. Si c'était une salat autre que salat al-fajr, peut-être que j'aurais dit comme toi. Car, quelle est la différence? Car pendant les autres salat, à part salat al-fajr, la personne est réveillée. Donc elle est éveillée. Comment se fait-il qu'elle ne prie pas? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? De plaisanter, de discuter, de voir la télé. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pourquoi qu'elle prie pas? Elle n'a pas d'excuse. Mais pour Salat al-Fajr, non. C'est spécial pour Salat al-Fajr. Non. Car c'est difficile pour se lever. Et la personne, il ne lui a pas encore rendu son âme. L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire des efforts. Premièrement, en dormant assez tôt. Deuxièmement, en ayant dans le cœur l'intention de vouloir se réveiller et même en demandant à Allah Ta'ala de m'aider. Si je ne me réveille pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y avait pas de kafara. Il a dit la tafrita fi salat. Il a dit dans la salat, il n'y a pas, si je puis dire, hein, si je puis dire, il parle de salat, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas de tafrita. Naam. Tu n'as pas fait exprès. Il a dit, Fali. Il a dit, quand la personne dort, elle ne s'est pas réveillée pour la salat, qu'elle fasse la salat quand elle s'est réveillée. Où commence le problème et où commence l'hypocrisie, etc. C'est quand tu te réveilles et ensuite tu dis, laisse-moi m'endormir encore. Allez, je vais encore dormir et quand je me réveille à 10 heures, je vais prier. C'est là que ça devient grave. Mais tant que dès que tu te réveilles, tu dis Alhamdoulilah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur et tu fais des efforts comme ça pour te relever, même si tu retardes encore d'une minute ou deux, ma'alich, c'est juste pour reprendre l'esprit. Ensuite, tu te lèves prier, Inch'Allah ta'ala, que tu n'as pas de péché. Et le hadith authentique que je vous ai cité plusieurs fois, de la femme qui est allée se plaindre à cause de son mari qui faisait trois choses, entre autres, elle a dit, il ne se lève pas pour Salat al-Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Le prophète sallam lui a dit, c'est vrai ce qu'elle dit? Pourquoi tu fais pas la prière sobh jusqu'à ce que le soleil se lève? Et nous tous on sait que quand le soleil se lève, l'heure, le moment de Salat sobh est terminé. Donc pourquoi tu fais Salat sobh après son heure? Il lui a dit, Ya Rasulallah, nous sommes connus pour être une famille qui a un sommeil lourd. Et je ne me réveille que yani, après, comme ça, en retard. Il lui a dit, Faïda staiqazta fasalli. Quand tu te réveilles, fais la prière. Il lui a pas dit non, tu n'es pas excusé, tu dois te réveiller. Non. Dabarrasak, tu dois te réveiller. Il lui a dit non, quand tu te réveilles, alors fais la prière. Donc voilà, yani, ce que je veux dire à cette sœur, inshallah ta'ala, c'est qu'elle fasse des efforts et elle voit. Si elle se réveille, alhamdoulillah, si elle ne se réveille pas, Allah sait dans son cœur qu'elle a voulu, qu'elle n'a pas pu. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mais de là, faire la faute, de dire, donc, puisque je ne me réveille pas, ça, donc, je suis hypocrite, et je ne vais plus rien demander à Allah, et je vais ceci, je vais cela, ce sera une deuxième faute. Ce sera une autre faute, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour vos cours très bénéfiques pour nous. Allahumma barak, mashallah. Voici ma question. Lorsque dans sa propre famille, on se sent seul, seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, car personne ne nous comprend et nous tourne le dos pour la simple raison que l'on veut adorer Allah, que peut-on faire? Essayer de s'intégrer auprès d'eux pour essayer de regagner leur amour en faisant des choses qui ne sont que perte de temps et futilité, comme le fait de regarder la télévision avec eux par exemple, ou continuer à garder ses distances, s'éloigner d'eux et rester dans son coin toujours seul avec Allah en essayant de l'adorer du mieux que l'on peut en attendant qu'un homme pieux vienne nous débarrasser de cet environnement insupportable comparable à une prison. Barakallahu fikoum ya cheikh pour votre réponse, wa jazakumullah khairan. Et je vous prie de me pardonner pour la longueur. Fadal cher.
Alaykoum salam wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa ittaba'a hawa wa kana amruhu furata, sourate al-Kahf. Naam. Je ne dois pas rentrer dans leur jeu. Naam, pour leur faire plaisir au détriment de yani ma foi et de mes adorations. Si c'est pour rester avec eux pour discuter comme ça de choses yani, sur lesquelles on doit discuter, ou là pour parler de naam, yani des choses familiales, ceci, naam, malish. Mais pour rester comme ça, yani dans les futilités, alors que, par contre, je pourrais apprendre le Coran, ou bien apprendre, yani lire des livres, ou bien, non, je ne dois pas. Yani, suivre leur passion. Je ne dois pas suivre leur passion. Moi, je suis dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala me donnera le succès. L'essentiel. Là, c'est très important ce que je vais dire. L'essentiel, je ne fais pas de mes ennemis. Naam, ça ne veut pas dire que je leur parle plus ou là, yani, s'ils me parlent, je leur réponds pas ou là. Non, non. Je me bagarre avec eux. Non, non. Ça veut dire que seulement, yani, mon temps, je ne veux pas le perdre dans leur futilité. Eux, si tu vas les suivre, toute la journée, c'est futile, du matin au soir. Donc moi, j'irai avec ma mère, j'irai avec mes soeurs, vous allez bien, mashallah, alhamdoulilah, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Et je rentre dans la chambre pour lire quelque chose, pour lire, naam. Au contraire, si en prenant cette distance-là, naam, cette petite distance, en la prenant, que eux, yani peut-être ça va les marquer. Et ils vont dire, subhanallah, n'est pas comme nous, subhanallah l'azim. Yani nous, là, on est vraiment dans la perdition. On perd tout notre temps dans les futilités. Et comme ça, peut-être petit à petit, inshallah ta'ala, ils vont venir vers le. S'ils ne reviennent pas, toi, alhamdoulilah, tu n'as pas perdu ton temps. Tu apprenais, tu as avancé, bi'idhnillah ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'envoyer incessamment, bientôt, celui qui te délivrera de cette prison, Amin ya Rabbil Alamin. Tfadhal. La sœur qui a demandé de l'argent pour les prospectus, c'est bien que la somme demandée a été atteinte. Alhamdoulilah, elle demande si des personnes souhaitent aussi aider, contactez-moi. Plus il y aura d'argent, mieux sera. Inch'Allah. Inch'Allah, la sœur a dit. Allah. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande si des personnes souhaite aider, naam, encore, maalich, contactez-moi. Plus il y a d'argent, plus c'est mieux. Femme, naam, alhamdoulillah, nous on pense dès que du bien. Plus il y a d'argent, c'est vrai, plus yani, il y aura des clients. Et plus, inshallah ta'ala, de gens en profiteront, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadla.
Alors, question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum Abu Abdillah. Hafizakum Allah. Vous avez dit que l'on doit aimer Allah qui nous donne ou qui ne nous donne pas. Mais alors peut-on dire qu'on n'adore pas Allah pour son paradis, mais seulement pour son amour? Barakallahu fekoum. Tfadha cher.
Non, on ne dit pas cela. Si on dit comme ça veut dire on a perdu le vrai chemin. On a perdu la boussole et on est sorti du minhaj. On ne dit pas, comme disent les soufis, que j'aime Allah pour Allah, pour son amour, et que j'ai pas besoin de son paradis, ni que j'ai peur de son enfer. Allah Ta'ala a dit qu'à nous idrounana rahaban wa rahaba. Il nous invoquait rahaban, c'est-à-dire en espérance qu'on a de bien, c'est-à-dire le paradis et la vision d'Allah, etc. Et Rahaban, et en ayant peur, c'est-à-dire de l'enfer et yani, des anges qui torturent, etc. Donc, nous, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah, l'âme, seulement yani, sans espérer son paradis, ni d'avoir peur de son enfer, mais on l'adore comme les messagers l'ont adoré. Comment qu'il l'adorait? Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala en le vénérant, ta'zeeman. Et en l'aimant et en espérant yani, la grande rétribution de lui d'un côté et en espérant qu'il nous épargne de l'enfer quand on va le rencontrer inshallah ta'ala. Tfadla. D'ailleurs, quand j'ai dit tout à l'heure que on devait aimer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous donne ou il ne nous donne pas, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être la personne n'a pas bien compris, pourtant je l'avais expliqué. Ça veut dire, imaginez que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'enrichisse. Par exemple, je suis pauvre. Non. Et il ne me donne pas. Il ne m'enrichit pas. Ça ne veut pas dire que khlas, je ne vais plus l'aimer. Je vais dire non, puisqu'il ne m'a pas donné la khol, il ne m'a pas enrichi, c'est ce que je voulais, donc je ne vais plus l'aimer. Non. Je demande à Allah ta'ala ce que je veux. Maintenant, s'il me donne, alhamdoulilah, je continue à l'aimer. S'il ne me donne pas, et je continue à l'aimer. Autrefois, les kuffars, il y en a certains comme ça qui n'avaient pas vraiment la foi, seulement dans la bouche. Ils rentraient en islam, et quand leur femme tombait enceinte, ils voyaient. Si c'était un garçon, ils disaient, oh, masha'Allah, la ni'ma qu'Allah Ta'ala nous a donnée. Si c'est une fille, il apostasie. Wa min Allahi man ya'budu Allah ala harf. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il y a des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la harf, ça veut dire yani, sur le bord, yani, à peine comme ça. Et ils attendent. S'il y a une ni'ma, mashallah. S'il y a quelque chose, ils ne donnent pas ce qu'on veut, allez. J'apostasie, a'oudou billah.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, qu'Allah vous préserve, vous et votre famille, ainsi que tous les auditeurs. J'aimerais que vous me conseilliez, par quels moyens acquiert-on la sagesse pour prêcher sa mère, car celle-ci ne prie pas. Elle souhaite, mais elle repousse souvent le moment où elle commencera à prier. Pouvez-vous la conseiller afin qu'elle accorde de l'importance à cette bâtisse qui est l'importance de la prière et l'effet apaisant qu'elle a sur nous? Alors, je vais juste, avant de laisser le micro cher, je vais juste demander à cette personne si sa mère est actuellement présente et si elle écoute pour savoir si le cher doit s'adresser directement à elle et si c'est le cas, doit-il parler en arabe ou en français, Inch'Allah. Tfadal cher. Voilà, non, mais c'est pour ça que j'anticipais, cher, je savais. Tfadal cher, j'attends qu'elle me réponde, Inch'Allah.
Donc, si tu m'as dit que tu attendais sa réponse, donc comment puis-je répondre? Donc, j'attends que tu me rendes la réponse, Inch'Allah. Elle est partie dormir en français. Elle est partie dormir. Non. Donc, cher, Muslim, si elle est partie dormir, donc à quoi ça sert de lui donner nasiha? On attend, inshallah ta'ala, qu'elle se réveille. Peut-être dans le prochain cours. Même dans le prochain cours, si elle est présente, inshallah ta'ala, naam, on la fera passer la première bi'idhnillah ta'ala. Si dans le prochain cours, elle sera présente, inshallah ta'ala, on le fera pas, on la fera passer la première, inshallah ta'ala.
Non, cher, je vais m'adresser à elle directement, à la personne qui a posé la question. Donc, comme le cher vient de vous le proposer, est-ce que vous préférez que votre mère soit présente et qu'il s'adresse directement à elle en direct? Et Allahu a'lam, je pense personnellement que ça serait meilleur par rapport à l'impact qu'il pourrait avoir, bidnillah. Ou est-ce que vous préférez qu'il réponde à cette question maintenant et que vous enregistrez, inshallah? Tfadha, cher.
Non, barakallahu fik, la sœur aussi, jazallahu khairan. Voudrais directement qu'elle sera présente. Pourquoi? C'est comme tu as dit, toi. Parler à une personne, on dit, ça donne un humble cœur. Car là, sans qu'elle est visée et qu'on est en train de lui parler. Tandis que quand c'est en différé, ça ne donne pas la même chose. Je préfère, inshallah ta'ala, si elle est présente. Dans le prochain cours, inshallah ta'ala, de lui répondre directement, bi'idhnillah ta'ala. En passant, puisque je parle du prochain cours, inshallah ta'ala, qui sera samedi, sachez, inshallah ta'ala, que à 80%, jusqu'à 90%, que le cours après salat l'Isha, comme aujourd'hui, inshallah, samedi, et non pas à 19h30, bi'idhnillah ta'ala. Tfadl.
Alors, question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde une longue vie accompagnée d'œuvres pieuses. Par rapport au début de la sourate Taha, vous avez dit que si on est malheureux, c'est parce que l'on n'a pas mis en application le Coran, car Allah ne l'a pas fait descendre pour que l'on soit malheureux. Est-ce que l'on commet un péché si nous sommes malheureux? Tfadha, cher.
Donc, quand j'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre le Coran pour qu'on ne soit pas malheureux, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui lit ce qu'il y a dans le Coran et l'applique, Allah ta'ala lui a promis que si elle était malheureuse, elle deviendrait heureuse. Et qu'il n'y a pas une personne qui applique ce qu'il y a dans le Coran, croit en ce qu'il y a dans le Coran, lit le Coran et devient malheureuse. Et devient malheureuse. Reste que, certaines personnes croient, par exemple, que si, par exemple, une personne, ou que son fils meurt, ou qu'elle fasse accident, un accident, ou ceci, cela, qu'elle soit atteinte d'un malheur, que alors, on dit d'elle, c'est une personne malheureuse. C'est pas comme ça qu'il faut penser et c'est pas comme ça que c'est en islam. En islam, il n'y a pas une personne qui est exempte des malheurs. Au contraire, plus il y a des malheurs, plus la personne est aimée et plus ça veut dire que elle a un grand statut chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est tout à fait le contraire. Mais Allah ta'ala veut dire ici malheureux dans le sens où pas ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, vivent comme des animaux. Non. Malheureux dans le sens où leur cœur n'est pas orienté. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas d'où ils sont venus. Ni ce qu'ils doivent faire taire. Ni qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils vont mourir. Donc, ils ne savent ni comment se comporter, ni comment vie, ni c'est en ce sens qu'ils sont malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, voici le verset. Regardez, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Allahu Akbar. Et nous compenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actes. Celui qui croit et fait de bonnes œuvres, l'a dit, fait de bonnes œuvres en étant croyant. Comme on a dit tout à l'heure, croyance plus acte. Tu as deux choses. Deux choses. Allah subhanahu wa ta'ala, la promesse. nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu vivras une bonne vie. Une vie de bonheur, mashallah. De bonheur. Quand je dis bonheur, c'est pas la richesse. C'est-à-dire de devenir milliardaire. Non, 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 non. La richesse du cœur. La richesse du cœur. Tout le monde a le cœur gros et chagriné, toi tu ne l'as pas. Tout le monde veut se suicider, toi non. Tu te sens heureux, mashallah. Tout le monde ceci, toi c'est le contraire. Tout le monde est milliardaire, toi tu es le pauvre, mais tu te sens heureux, alhamdoulilah. Pourquoi? Tu as la foi, eux ils n'ont pas la foi. Non. Tu as l'amour, ils ne l'ont pas. Tu as le ravissement d'Allah, eux ils ne l'ont pas. Allah t'a guidé, eux il ne les a pas guidés. Il y a le paradis qui t'attend, pas le paradis qui les attend. Il y a le prophète Hassan, tu vas le rencontrer. Eux, ils ne vont pas le rencontrer. S'ils le rencontrent, ils le voient de loin. Et comme ça. Donc, toute personne qui croit et fait les bonnes œuvres, elle aura deux promesses. Elle va vivre une bonne vie, mashallah. Et Yom al-Qiyam, elle a dit, va récompenser, yani, en fonction de ses actions. Donc, voilà ce que je voulais dire par malheureux et non pas comme a compris la personne, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Naam, chérie, sur ce que vous venez de dire, il n'y a pas plus que deux ou trois semaines, il y a un millionnaire ou un milliardaire, il s'est suicidé parce qu'il a appris qu'il était malade d'une maladie incurable. Et il s'est suicidé alors qu'il était millionnaire, milliardaire. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Barakallahu fikoum pour votre cours. Je voulais revenir sur le sujet de la guidée. On sait que la guidée, c'est Allah qui la donne. Mais on sait aussi que l'être humain est maître de son choix lorsqu'il est mauvais. Pouvez-vous m'éclaircir sur ce point? Barakallahu fikoum, cher. Tfadal, cher.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La guidée, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, avant cela, ça me rappelle une chose, tu m'as rappelé une chose, musulmane, quand tu as parlé de ce milliardaire qui s'est suicidé. Naam, qui s'est suicidé. Allahu akbar. Compare maintenant. Comparons 89 ans, 89 ans, il a vécu loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et a terminé sa vie par subhanallah l'adim, par le suicide. Donc, il a été convaincu que l'argent ne donnait pas le bonheur. Il a essayé avec ses milliards et il a vu que le cœur était toujours chagriné et qu'il sentait. Il sentait la prison dans son cœur. Il se sent en prison. Un moyen. Comparons maintenant ce vieux de 89 ans avec un autre vieux qui a aussi 89 ans ou 88 ou quelque chose comme ça et qui s'appelle Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Il est mort avec quoi? Avec un cancer. Non, il est mort avec un cancer et le cancer il l'avait depuis des années. Il ne s'est jamais arrêté de donner des cours, même avec le cancer qu'il avait, jusqu'au dernier jour. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Le dernier jour où il est mort, il a donné un cours par téléphone. C'est-à-dire, on lui posait des questions et il répondait comme ça à l'hôpital. Le dernier jour où il est mort. Subhanallah al-Azim. Quand je dis dernier jour, ça veut dire qu'auparavant, il n'avait jamais loupé un cours. Alors, Allahu Akbar, avec un cancer, il n'a jamais dit, ou là, c'est plein, ou là, yani, s'est suicidé. Mais il se sentait le plus heureux. Naam. Il donnait des cours, propageait la da'wah, montrait aux gens. Naam. Subhanallah, un phare dans les ténèbres. Un phare, yani, dans les ténèbres. Subhanallah. Donc, comparer entre ces deux vieux. Et regardez. La différence entre quelqu'un que Allah Ta'ala a guidé et quelqu'un qui a été égaré. Mouhim. On revient à la question de la sœur ou bien du frère pour la guider. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala yani, nous a montré quelques secrets par rapport à sa guidée. Comment qu'il guide les gens. Des fois, la personne, nous on lui fait par exemple des doigts. Il y a une personne qui est loin, égarée, qui est dans l'alcool, ceci, cela, n'a jamais pensé ni à la salat, ni à l'islam, ni. Et une personne, par exemple, ou un voisin, ou là, un ami, ou là, qui est mashallah, et qui a des, des vœux exaucés, lui a fait des doigts. Il a dit à Allah, guidez-la. Et Allah, guidez cette personne, par exemple. Car c'est permis de faire des doigts pour les kuffars, pour que Allah Ta'ala les fasse rentrer en islam. C'est pas permis de leur demander la miséricorde, etc. Mais de leur faire des doigts pour rentrer en islam, c'est permis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme dans Sahih al-Bukhari, il a dit, Allahumma ahdi dawsan wa ati bihim. Ya Allah, guide Daws. Dawsan, c'est une tribu, la tribu de Abu Huraira. Abu Huraira, il s'appelle Abdurrahman Sakhr Dawsi. Il a dit, Ya Allah, guide les Dawsi et fais-les venir maintenant. Et Allah Ta'ala les a guidés, entre autres Abu Huraira. Al-Muhim. Donc, c'est permis que tu fasses toi des doigts pour ton voisin, le kafir, pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Alors, Allah Ta'ala va le guider de par quoi? Ce que tu as fait toi. Pour toi spécialement. Pour te ravir. Allah Ta'ala va dire, d'accord, je vais t'exaucer ton vœu. Et il va le guider. Ça, c'est par exemple une façon. La plupart du temps, Allah subhanahu wa ta'ala guide en voyant ce qu'il y a dans les cœurs. En voyant ce qu'il y a dans les cœurs. Nous, on ne connaît pas ce que les gens ont dans les cœurs. Mais Allah Ta'ala, quand il sait que telle personne, par exemple, a du bien dans le cœur, il lui donne alors du bien. Regardez ce verset où Allah Ta'ala a dit, si Allah sait qu'il y a quelqu'un bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux. Si Allah Ta'ala sait qu'il y a quelqu'un bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux. Il a dit dans un autre verset, une seconde, une seconde, là. Une seconde. C'est un peu difficile pour trouver les versets. Fa'alima fi qulubi. Tayyib. Regardez ce verset aussi qui va venir, bi'idhnillahi ta'ala, en français. Regardez ce verset, inshallah ta'ala. Allah Ta'ala a dit, cœur, que Allah voyait dans les cœurs. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Et alors, résultat, il a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Est-ce que vous avez vu le verset? Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su, naam, alhamdoulilah, regardez le témoin du cours, il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, résultat, et a fait descendre sur eux la quiétude. Anzala alayhim sakina, la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche. Donc la plupart des temps, Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans les cœurs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, a dit Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs des gens. Il a trouvé que le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur cœur. Alors il l'a choisi pour sa prophétie. Ensuite, il a regardé encore dans les cœurs. Il a trouvé que les compagnons c'était les meilleurs, leurs cœurs c'était les meilleurs cœurs. Il les a choisis pour compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Hein? Pour les rawafid qui disent que les sahabas c'est des kuffars. On leur dit, Allah Ta'ala a vu dans leur cœur, il a trouvé que c'était les meilleurs gens qui avaient les meilleurs cœurs à l'époque. Il les a choisis pour, yani, seconder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est, on a dit que une autre façon de guider, Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans les cœurs. Il voit que cette personne, yani, pense. Elle a eu un petit déclic. Elle commence à se dire, j'ai envie de prier. J'en ai marre de cette vie. J'ai envie de changer. J'ai envie d'aller vers Allah. J'ai envie d'adorer Dieu. J'ai envie de rentrer en islam. Et comme ça, dès que Allah subhanahu wa ta'ala voit de toi qu'il y a un petit pas, comme il a dit dans le hadith, tu viens en marchant, je viens vers toi en courant. Tu viens vers moi d'une coudée. Ou la dernière pont, je viens vers toi d'une coudée. Et comme ça, Allahu Akbar. Donc, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, que la plupart du temps, il voit dans les cœurs. C'est pour ça qu'une personne ne peut pas dire Yom Kiyama, Ya Allah, pourquoi telle personne vous l'avez guidée et moi vous ne m'avez pas guidée? Ya Allah, pourquoi mon voisin, il était kafir, vous l'avez guidé. Et moi je suis kafir comme lui, vous ne m'avez pas aidé, guidé. Allah Ta'ala va lui dire, ce qu'il avait dans son cœur, tu ne l'avais pas. Toi, dans ton cœur, tu avais quoi? Ça te plaisait ta situation. Tu voulais continuer dans ça. Tu voulais aller t'approfondir dans les péchés. Tu voulais, alors que l'autre, non. L'autre, c'est pour ça que remarquez, toute personne qui est vraiment loin, 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 et s'assoit juste 5 minutes, et dit, jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Pourquoi c'est pas mieux, je commence à chercher, yani, comment, yani, aller vers, par exemple, mon Seigneur est comme ça. Toute personne qui fait comme ça, dans la plupart du temps, vite Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la guider. Vite, vite. Pourquoi? Elle a déjà fait un petit pas. Elle a déjà fait un petit pas. Mais celui qui ne fait pas ce petit pas, qui veut au contraire rester dans la voie déformée, Allah ta'ala, comme il a dit dans le Coran, وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Et on les laisse, il a dit, dans leur tyrannerie, يعني يعمهون, s'aveugler, s'aveugler. Et la preuve, avant de quitter, la preuve que tout à l'heure, comme j'ai dit qu'une personne peut faire une doua, que Allah subhanahu wa ta'ala guide quelqu'un, c'est comme par exemple aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de deux kuffars, il a dit, Allahumma ihdi ahad al-umarayn, ya Allah, guidez l'un des deux Omar. Omar ibn Khattab et l'autre Omar, j'ai oublié c'est qui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Omar ibn Khattab. Il l'a guidé. Le hadith est venu à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que c'est Abu Jahl. Naam. Ou là Abu Lahab. Naam. Tfadlal. Alhamdoulilah. Écoute, est-ce que tu peux me donner la dernière question? Pas trois, la dernière. Déjà que je suis chez des gens, je suis pas chez. Continue, Inch'Allah Ta'ala, pour partir. Tfadlal.
Naam, cher, qu'Allah vous récompense. Jazakumullah khairan. Donc, la dernière question pour ce soir, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais faire venir ma mère en France pour un séjour de 1 ou 2 mois pour lui faire plaisir, car elle est éprouvée par la séparation de mon père. Et pour lui faire la demande du visa, nous devons payer les frais de dossier, mais une assurance médicale obligatoire est comprise dans ces frais. Cette assurance est imposée par l'État algérien, sinon sa demande va être rejetée. Est-ce autorisé, sachant que je ne prendrai pas l'argent de cette assurance en cas de maladie? C'est juste pour compléter son dossier. Je m'engagerai moi-même de lui payer tous les frais médicaux s'il y a besoin. Barakallahu fikoum et qu'Allah vous récompense grandement pour les efforts que vous faites pour la da'wah. Tfadha cher. Barakallahu fikoum.
Des fois, il y a des choses qui nous sont imposées et que le musulman, il y a un test. S'il fait la chose, au moins il déteste par son cœur. Non, des fois, des choses te sont imposées et tu n'as pas d'autre solution. Dans ce cas, la personne doit quoi? Doit détester la chose avec son cœur. Non. Je dis sinon. Si la personne sait par exemple que c'est elle qui va aller vers sa mère dans un pays musulman. C'est elle qui va aller laisser elle passer les vacances chez elle, etc. C'est mieux que de la faire venir dans un pays de kofar. C'est pas la peine de vous yani de vous répéter les hadiths qui parlent de ceux qui vivent parmi les kofars. Donc, comme disent les savants, ils disent que c'est interdit d'aller en tourisme, ce qu'on appelle chez nous, on dit je vais touriste, où est-ce que tu vas? Je vais en France passer quelques jours, là, je vais en Espagne ou là. Non, tu vas en touriste dans un pays musulman, pas dans un pays de kofar, pour assister et voir avec tes yeux le haram, entendre le haram et ne pas pouvoir changer. Qui t'a dit d'aller là-bas? Tu vas dire, c'est plein de péchés. On va dire, qui t'a dit d'aller là-bas? Est-ce qu'ils t'ont forcé avec des chaînes? Non, c'est pour ça que je dis, c'est interdit d'aller ou bien de faire le tourisme dans un pays de kofar. Si on y va là-bas pour soins, pour visites, pour études, pour commerce, pas pour tourisme. C'est pour ça que je dis à cette personne, si elle n'a d'autre solution que de la faire venir et que ce n'est pas elle, ce n'est pas eux qui peuvent aller là-bas, ta'ala, inshallah ta'ala, que ça rentre dans la contrainte, cette assurance. Wallah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah, comme j'ai dit, vers 21 ta'ala. Il y a quelqu'un qui vous cherchez, quelqu'un qui va en Algérie. Il y a quelqu'un qui dit. Je pense, wallahu a'lam, je pense, wallahu a'lam, que la personne est trouvée. Que la personne a été trouvée, wallahu ta'ala a'lam. Mais je te confirmerai, inshallah ta'ala, d'ici samedi. Confirmerai, inshallah ta'ala, d'ici samedi. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu la ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.